Alors, le sujet de cet après-midi, c'est à grands traits, hein, je m'excuse, hein, il faudrait... Mais on a décidé avec Jean-Claude qu'on fait 3 ans de formation en 6 jours. Hein. Ah oui, oui. Alors bon, donc à grands traits, la spiritualisation du corps.
Ah voilà.
Ah, alors, vous pourrez... alimenter la réflexion que je vais vous faire tout de suite en allant sur un site que je connais bien qui s'appelle http://catholique.net. Vous irez dans la bibliothèque et vous allez à la bibliothèque et vous irez prendre le livre d'un certain Père Nathan qui a écrit Les éclatements de l'un, le retour à l'un. C'est l'anti-énéagramme, vous voyez, je vous ai parlé des énéagrammes, donc, la manière de voir quels sont les grands traits profonds d'un être humain, c'est les énéagrammes, seulement les énéagrammes. Le gros problème des énéagrammes, dans certaines communautés chrétiennes, vous voyez, on fait les énéagrammes pour voir. Alors, si tu es BG4, dans les énéagrammes, tu ne peux plus être berger, parce qu'un BG4 ne peut pas être berger. Là, les énéagrammes, si tu as une compulsivité essentielle, alors il y a des bouquins sur le. Maintenant, des cathos hyperforce qui t'écrivent des bouquins. Qui t'écrivent des bouquins, c'est d'accord, Pascal Hyde a écrit un bouquin sur les énéagrammes, communauté Emmanuel à la Rome. Ephraim, il a écrit un truc sur les énéagrammes, etc. C'est catastrophique. L'origine des énéagrammes, c'est quand même Gurdjieff. Gurdjieff, c'est un des précurseurs de l'Antéchrist. Hein. Attends, et la structure énéagrammique, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient de Babylone. C'est un truc qui a été déterré de Babylone du 9e siècle. Hein. C'est un truc babylonien, donc c'est pas tout à fait nouveau. Et c'est très grave. Enfin, moi je dis que c'est très grave parce que on regarde dans les énéagrammes, si tu es A, B, C, D, E, F, G, et dans B, D, E, F, G, on regarde les compulsivités fondamentales d'un être humain. Vous voyez, avec du PNL, du machin, vous voyez, PNL, programmation neurolinguistique, etc. Bon, moi je m'excuse, mais je dis alors voilà, vous prenez la main comme ça, voilà, vous vous posez ici. Alors dis ton papa, tu l'aimes bien, et ta maman, c'est un bon bas. Voilà. Bon, ok, alors, d'accord. Alors avec, c'est tout ça, ça va un peu ensemble, hein, le RAM, le PNL, le machin, le truc, bon. Ça, là, alors là, vous voyez, ça, écarté, ah, sauf plus. L'Église a condamné les énéagrammes, officiellement, dans le document qui est sorti il y a 8 mois, je crois. C'est condamné, hein. Pourquoi c'est condamné? Heureusement que c'est condamné, quand même. C'est pourquoi? Parce que, ce que je vous ai expliqué tout à l'autre jour, c'est que, il y a une contraction donc de la partie spirituelle de votre corps qui n'imprègne plus complètement votre corps à cause de la contraction due à la propagation du péché originel. Donc ça, je pense que vous l'avez compris. Bon, le résultat, c'est que nos compulsivités essentielles et fondamentales, elles sont quand même, vous voyez ici là, cette espèce de petite surface là, qui est là, elles sont là. Elles appartiennent à précisément cette blessure de la rétractation de l'esprit dans le corps, dans notre psychisme. Et c'est ce qu'ils appellent les compulsivités essentielles énéagrammiques. Mais attends, ça n'a strictement rien à voir avec les choix spirituels libres qui sont encore inscrits dans votre mémoire ontologique, dans votre liberté d'origine. Et ces choix spirituels libres de votre innocence divine originelle, c'est tout à fait autre chose. Et si vous voulez savoir, en gros, il y a 14 choix spirituels possibles dans votre passivité, dans votre memoria dei originelle. Ah, et voilà, et donc, il faut quelque part apprendre avec Jésus, à retourner dans nos... dans la manière dont nous nous sommes un petit peu rétrécis, dans notre amour, voilà, dans notre recherche de la vérité, dans notre désir de transformer le monde pour qu'il soit parfait, dans notre unité avec toute la famille humaine, Dans les sept dimensions de l'homme, vous voyez, dans notre union totale et dans l'intérieur de Dieu mon Père Créateur, voilà, les sept dimensions de l'homme, hein, les sept dimensions de l'homme, c'est l'amour, la vie contemplative, la recherche, se nourrir de la vérité et en vivre, enfin la chercher, l'adoration, enfin le fait que on puisse emporter toute la création à l'intérieur de Dieu en adorant, en servant le Créateur et en donnant toute sa signification. Notre génie, c'est-à-dire on a chacun un génie pour transformer le monde et le rendre parfait. On a un génie, on a une mission, quoi, de ce point de vue-là, pour transformer la terre et la rendre magnifique. Hein. Donc, ça c'est sûr, parce que Dieu est créateur, je suis à l'image et ressemblance de Dieu, donc je suis créateur, il y a une dimension créatrice en moi, artistique, si vous préférez. Bon, mais il ne faut pas qu'elle soit trop à ramasser, vous voyez, sinon c'est l'artiste qui s'exalte dans son art. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas génial, justement. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la dimension familiale, communautaire, j'appartiens à toute la famille humaine. Il y a la dimension naturelle, j'appartiens au corps du monde entier. Dans mon corps, je porte tout ce qui existe. Dans mon corps vivant, je porte tout ce qui est vivant dans le monde. Et c'est ce que je vous ai expliqué. Bref, j'ai sept dimensions en moi, les sept dimensions humaines. Voilà. Et en fonction de ça...
On en a 5.
Quoi? Ah, ben non, je... Bon, alors... J'ai un cœur, j'aime l'affectivité, l'amour. J'ai une intelligence, je suis une personne. Donc, je cherche la vérité, je me nourris de quelque chose qui me dépasse et je rentre. Vous voyez, c'est la vie contemplative, la recherche de la vérité. Alors, je suis un artiste, en ce sens que Dieu est créateur, mais il ne crée pas un petit truc, il ne se restreint pas en créant. Il crée tout. Il se porte lui-même en nous pour que son acte créateur puisse aller jusqu'au bout de la beauté. Donc notre art ne doit pas être restreint. Vous voyez? Donc on a chacun génial pour ça.
C'est
le point de vue génial, ça, oui. Oui, d'accord, bon, donc on... D'accord, ben, c'est pas mis dans l'ordre, on est d'accord. Donc on est des créatures de Dieu. En ce sens qu'on est relié avec, on est relié immédiatement à Dieu et on s'engloutit à l'intérieur intime de Dieu. Et du coup, on fait aspirateur, on aspire toute la création qui elle-même est créée par Dieu. Nous sommes les introducteurs de toute la création à l'intérieur de Dieu. On est des adorateurs. Voilà, vous voyez. Donc c'est la dimension absolue, la dimension d'absolu qui est en nous, la dimension communautaire qui est en nous. Là, je suis lié à toute la famille humaine, je fais partie de l'Église, je fais partie de toute l'humanité, je fais partie de tous les hommes, de tous les temps et de tous les lieux. Mon cœur bat dans le cœur d'Adam. C'est sûr, ça. Mon cœur bat, comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans le cœur de tous les enfants qui sont morts sans baptême. Voir le poème qu'elle a fait. Pour tous les enfants qui sont noirs avant de naître et d'avoir reçu le baptême, qui sont dans les lames. Son cœur bat dans leur cœur, et tout ça, et que du coup, elle fait un chant, une psaume, un poème incroyable, où les enfants qui sont morts dans le baptême lui apprennent à elle à avoir cette danse, cette extraordinaire des enfants qui eux-mêmes voudraient se répandre dans le cœur de tous les hommes, faire partie de la famille humaine, alors que la famille humaine dit qu'il n'existe pas. Voilà, elle a un poème incroyable, c'est intéressant, Jésus là-dessus. Il a été interdit de publication par la mère prière. Du carnet. Mais maintenant qu'elle est docteur de l'Église, on peut publier. Bon, donc on fait partie de la famille humaine, et puis quoi? Qu'est-ce qui me manque là? Donc,
la nature.
Ah oui, bah, j'ai un corps, quoi, quand même. J'ai un corps, donc j'ai un corps, et donc je vais me nourrir de la souffrance. Pourquoi? Parce que d'où vient la souffrance? D'où vient le mal? Ce qu'on appelle le mal, c'est que je suis une partie. Je suis limité dans mon corps. Hein, moi, je fais seulement 100 kilos. Mais je fais partie de l'univers, donc je suis une petite partie de l'ensemble de l'univers. Mais une partie dans un tout, quand vous mettez une partie dans un tout, le tout fait toujours pression sur la partie, et donc si vous êtes fait partie d'un tout, automatiquement vous souffrez. La souffrance vient du fait que la partie fait pression sur le tout fait pression sur la partie, donc le seul fait que vous faites partie de la nature est la source de la souffrance. Donc, c'est en vous nourrissant de la souffrance que du coup vous prenez pleine possession de la nature. Quelqu'un qui n'aime pas la souffrance, c'est quelqu'un qui n'aime pas la nature. Du coup, il va faire une hystérie mystique d'amour de la nature. Mais ce sera une haine profonde de la nature. Ce sera une hystérie métapsychique de la mort de la nature. Ce sera hystérique. Faut soigner ça. Alors, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, donc, l'intériorité, nous avons une vie intérieure. Nous avons une âme. Donc, la lumière, nous avons une âme. Donc, c'est la vie intérieure, l'intériorité. Bah, quand même, on a une vie intérieure. Et donc, de ce point de vue-là, vous voyez, c'est dans quoi s'engouffrent les bouddhistes. Les bouddhistes s'engouffrent uniquement là. Voilà. Dans l'intériorité de l'âme, pour s'engloutir, Sri Aurobindo aussi, dans l'intériorité, jusqu'à atteindre le point de contact de la lumière qui active leur diaphane intérieur avec ce qui active le diaphane cosmique. Mais c'est par la voie de l'intériorité. Du coup, je ne rencontre jamais le Créateur, évidemment. Je ne reste pas. C'est impossible, par la voie d'intériorité, de toucher Dieu. Strictement impossible. Pour adorer son Créateur, il faut ouvrir les yeux. Sens du toucher, Dieu existe, hop, et sortir complètement de soi, de sa vie intérieure. Parce que si tu rentres dans la vie intérieure, dans le plus profond, la source au-delà de laquelle tu ne peux pas aller, cette source absolue, c'est l'âme, ça s'appelle l'âme, justement. Alors, ou tu te mets en dépendance de cette source, tu t'adores toi-même, ou tu te mets en dépendance de la transcendance de Dieu, et c'est plus évidemment pas par la voie d'intériorité. Mais la voie d'intériorité est quelque chose de très intéressant, de très important, parce qu'il faut quand même avoir une vie intérieure. Pourquoi ? Parce qu'il faut illuminer le monde. Bon, en tout cas, tous ces sept aspects, on l'avait en plénitude dans la première cellule. Lucidement. Mais on s'est contracté. Contraction, propagation du péché originel, il y a eu une contraction. Et cette contraction. Et cette contraction, finalement, elle a produit, du coup, en nous des choix libres, attention, lucides, attention, c'était lucide, même si c'était dans une liberté totale. C'est vrai que l'intelligence ne fonctionnait pas tellement bien pour réagir, ni le cœur, puisqu'il n'y avait pas de concupiscible et d'irascible, vous comprenez, donc il n'y avait pas de cerveau pour l'intelligence, ni l'intellect agent n'avait pas son support, etc. Bon, pour le jugement, sans y toucher, donc il restait que la liberté lucide, extraordinairement puissante, cette liberté du oui. Et ce oui, donc, a fini par s'exprimer, mais lucidement, dans cette contraction, vous voyez, et dans l'amour séparant de Dieu. Donc, comme il y a eu l'amour séparant de Dieu qui ne vient pas du péché, plus cette contraction qui vient du péché, ça fait 14 choix possibles. Bon. Donc, il faut que vous repériez en lisant, en allant dans le site http://catholique.net, bibliothèque mystique de l'Ain. Vous verrez quels sont ces 14 choix profonds. Vous demandez à Jésus de venir s'incarner avec l'Immaculée Conception, grâce à l'Immaculée Conception en vous, pour que dans son sang précieux, il vous pardonne que vos choix, ce soit un mélange, voyez, de ce qui vient de la propagation du péché originel, plutôt que de l'amour séparant. Donc il y a des choix de néant, il y a des choix de mort, il y a des choix de vide, il y a des choix de etc. Vous verrez, hein, il y a des choix il y a des choix de vie, des choix, c'est merveilleux. Mais on a ces 14 choix, mais ils ne sont pas. Donc il va falloir les revivre actuellement avec Jésus, comme si on était dans la première cellule, dans la propagation du péché originel, et revivre notre complicité, notre coopération au péché originel, en revivant autrement avec la plénitude de Jésus crucifié, qui, dans le péché, lui, rechoisit toujours une autre vie que cette vie contrainte, puisque c'est la vie éternelle, c'est la création éternelle, c'est la lumière éternelle, etc. C'est l'amour éternel, c'est la victoire de l'amour sur tout, etc. Vous voyez, donc tout ça, vous verrez ça, c'est intéressant. Bon. Ah, c'est une petite spiritualité de la découverte de, donc, premièrement, spiritualisation du corps, prise de conscience du corps originel. Premièrement, prise de conscience du corps originel. Alors, vous regardez de tous les côtés, vous posez à droite, à gauche, vous tournez dans tous les sens, mais actuellement, ça, c'est en vous. Quand vous vous arrêtez, vous avez cette palpitation de l'innocence divine originelle dans tous vos 70 000 milliards de cellules, là, qui attendent que vous le repreniez pour le faire revivre actuellement, efficacement, mais dans la lumière merveilleuse de l'incarnation du Seigneur, voyez, dans le Verbe de Dieu, voyez. Alors ça, c'est... Et en demandant pardon. en demandant pardon. En demandant pardon. Et vous vous sentez bien, quand vous avez demandé pardon là, vous demandez pardon en même temps pour tout, pour Adam, pour Ève, et puis pour toutes les sociétés originelles de tous les temps et de tous les lieux. Ça ne peut pas être autrement. Vous voyez comme on est immensément loin des énéagrammes. Il y a des choix qu'on a fait, si vous voulez, dans la propagation des péchés originels, qui font que du coup, et ça date de là, hein, qui fait du coup, celui-là, ça ne tient pas tellement à l'atavisme des parents, hein, souvent. Hein, dans la même famille, il y en a un qui est hyper artiste, puis l'autre qui est hyper intérieur, et l'autre qui est hyper politique, enfin bon, qui a un sens communautaire incroyable. Si on a des choix différents, vous voyez. Mais c'est ça, c'est des choix profonds un peu différents, vous voyez. Ça date de là, mais en même temps, quelque part, oui, du coup, c'est au détriment de certaines choses. Et puis aussi, c'est fait d'une manière qui est trop contraignante dans ce domaine, et que du coup, n'est pas tellement vécu sur le plan de la plénitude de notre humanité, de notre personne. La plénitude de notre humanité à nos personnes, c'est dans l'harmonie de cette dimension-là. Donc les 14 éclatements de l'un, de notre unité originelle, doivent être repris dans une prise de conscience du corps originel. Donc première manière de spiritualiser le corps, prise de conscience du corps originel. Et je pense que c'est pas très difficile. C'est pas très difficile. Parce que, écoutez, comme dit saint Augustin, nous avons la memoria dei. Nous avons l'intelligence pour contempler, pour avoir la foi. Nous avons le cœur pour aimer, pour avoir la charité. Et pour avoir l'espérance, nous avons la memoria dei. La memoria dei, c'est précisément d'être dans cet état du oui, au moment où Dieu m'a créé, et abstrusior intimo meo, comme dit saint Augustin. Une abstrusion, une invasion sans limite et même éternelle de l'intime de moi-même. Ce oui de Dieu, qui est moi-même. Voilà ma liberté. Dans toutes les directions, la vie intérieure, la vie extérieure, la création, la nature, la beauté, la vérité, quoi, la vision béatifique, tout, c'est oui. Et j'ai vécu, consciemment, lucidement, librement. Je revis ça maintenant. Ah, voilà, retrouvez avec son corps originel. Compliqué, ça? Plus simple, tu meurs, hein. Ce oui d'origine, c'est très facile de le redire, quoi. Comme disait le vieux père Thomas. Vous comprenez? Bon. C'était toutes les trois phrases. Il était maître en théologie. Vous savez, il y en avait trois. Il y en a trois en dans le monde, hein, trois maîtres. Oui, non, père Thomas. Vous voyez? Vous comprenez? Alors, bon, c'est. Oui, voilà. Abstrusor intimo meo. Vous savez, cette parole de saint Augustin. Oui. Ça, c'est retrouvailles avec le corps originel, c'est retrouvailles avec votre vocation profonde, votre liberté profonde, tandis que vous êtes libre. Il n'y a pas toutes les sonneries, toutes les infestations qui sont venues en vous après, quoi. C'est complicité. Hop ! Allez, hop ! Ça, voilà. Je retrouve donc ici une odeur de mon innocence divine originelle, aujourd'hui crucifiée, d'accord ? Aujourd'hui blessé, mais n'empêche que je retrouve mon innocence divine. C'est à partir de mon innocence divine que je vais vivre. Alors je vais vivre, et bien sûr, je vais vivre pour le spiritualiser, puisqu'il est blessé. Bon, je vais faire cette prière, je vais dire, je plonge mon innocence divine originelle, ce oui extraordinaire, crucifié, dans le triomphe de l'innocence divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Facile comme prière à faire. Oui, je plonge mon innocence divine originelle, ce oui extraordinaire, mais qui est crucifié, c'est évident, il est fêlé. Mais ça, c'est assez second. Je plonge mon innocence divine originelle, crucifié. Ou si vous préférez ma liberté, ce oui absolument, qui est encore là, hein, il est encore là. Hein. Mais il est un peu contraint. Mais
dès que je le reprends, il n'est plus contraint. Mais la seconde après, il est à nouveau contraint. Je plonge mon innocence divine.
Originelle.
Je plonge mon innocence divine. Originelle. Enfin, la menace n'était pas originelle, c'est évident que c'est originel. Je plonge mon innocence divine, crucifiée, ou blessée, ou fêlée, dans l'innocence triomphante de notre Seigneur Jésus.
Dans
l'innocence triomphante de Jésus, dans la source vivante de l'Immaculée Conception, dans l'innocence triomphante de Jésus. Ou si vous préférez aussi, vous pouvez mettre aussi Marie, hein, dans la source vivante triomphante de l'Immaculée Conception. Dans la source vivante triomphante, vous avez appris, première fois que je vous ai appris lundi. Dans la source vivante triomphante de l'Immaculée Conception, si vous êtes une femme, bien sûr. Une nouvelle Ève. Dans la source vivante triomphante de l'Immaculée Conception. Voilà. Là, à ce moment-là, vous faites le mélange de l'eau et du vin, et c'est les noces de votre innocence divine originelle et qui commencent dans le monde nouveau. Spiritualisation du corps originel, c'est comme ça. Vous voyez ? Vous ferez pareil pour les enfants avortés. Pour les enfants avortés, à chaque fois que vous allez communier, je dis, venez les enfants, et votre innocence divine crucifiée, je l'engloutis, je la mélange avec l'innocence triomphante, je suis avec la source vivante de l'innocence vivante de l'Immaculée Conception. Ah, je vous baptise dans je suis Marie et Joseph, quoi, c'est vrai, hein, c'est facile. C'est ça. C'est le seul lieu où ils vont respirer dans leur innocence divine crucifiée, pour triompher dans l'espérance. Parce que c'est leur espérance qui va inspirer le retour de la Jérusalem glorieuse, la parousie du Seigneur, la croix glorieuse. Bon, en tout cas, une chose est sûre, que vous allez faire pour vous, vous allez faire pour votre fils, pour votre fille, pour votre soeur, pour votre papa, votre maman, celui qui est mort, l'enfant que votre cousine a avorté avant-hier, etc. Bon. Il faut s'habituer, si vous voulez, il faut s'habituer. Vous vous arrêtez un petit peu. Pour ça, vous voyez, vous arrêtez un petit peu. Stop, je m'arrête. Je prends 3 secondes. Tu te calmes. Tu te regardes. Et ça frétille là-dedans. 700 milliards de fois, ça frétille, hein. Ah, et tu vas luisant. Oui. Allez, vous reprenez. Ou vous faites la prière, si vous n'avez pas, de perception, disons, spirituelle de votre liberté, de votre mémoria, de votre mémoire ontologique, de votre mémoria Dei, ce qui est un peu triste, hein. Bon, si vous n'avez pas cette sensibilité, vous faites la prière, dites, Seigneur, je revis actuellement ce oui de mon innocence divine originelle. Vous le dites, et ça se fait. Vous le dites, ça se fait. C'est pas compliqué, hein. Si vous le dites, vous le dites avec les lèvres, hein, vous n'y comprenez rien, vous dites, voilà, Seigneur, en ce moment, bon, je revis dans toutes les cellules de mon corps, dans mon corps originel, je suis en harmonie avec mon corps originel, et je revis mon innocence divine originelle dans le oui de toute ma vie. Sur la terre et dans les cieux, quoi. Dans mon inscription dans le livre de vie, je le dis, voilà, c'est maintenant. Je le dis avec mes lèvres, ne vous inquiétez pas, ça se fait. Ça n'a rien à voir avec votre compréhension mentale. Strictement rien à voir avec votre compréhension mentale. Vous le dites, et ça se fait. C'est parce que les mots justes entraînent l'acte juste. Bon, alors ça, c'est bien. Si vous faites ça, et comme vous voyez, Jésus envoyé les apôtres deux par deux. Celui qui, le deuxième apôtre qui va avec l'adoration, vous sentez bien que ça c'est un moyen d'adorer par le point de vue vital, par le point de vue de la mémoire de Dieu, donc une puissance spirituelle intérieure de votre âme incarnée dans l'esprit. Là, pour que vous puissiez, le deuxième, faire une véritable adoration, vous faites ce que je vous ai expliqué, pour vous toucher. Vous voyez, c'est avec les sens externes, cette fois-ci. Vous touchez la nana qui est à côté. Enfin, vraiment, là, je rêve pas. elle existe. Je rêve à elle quand elle est en Suisse, je dis, oh là là, mais là je la touche, là je sais que c'est vrai, elle existe. Elle existe. Incroyable, elle existe. Moi aussi j'existe. Voilà, donc ma vie, ce qui se passe dans ma vie, mes idées, tout ça, c'est pas très intéressant. Mais le fait que j'existe, c'est le Père Emmanuel, mon Dieu, Père Emmanuel.
Mais moi, je veux dire, mon secret. Mon secret, c'est très simple. Voilà. Je reconnais que je suis un salaud. Ça, le Seigneur le sait, moi aussi. Donc, de ce point de vue-là, on est d'accord. Mais, voilà, donc, que j'aille en enfer, je le mérite, ça c'est certain. Mais je reconnais une autre chose, c'est que si j'y réfléchis bien, quand je vais en enfer, je ne serai pas mécontent. Parce que l'une des choses qui me fait le plus de plaisir dans ma vie, c'est le fait d'exister. Le fait d'exister, ça me fait du bien. Et en enfer, je continuerai d'exister. Donc j'ai l'essentiel de ce qui me fait plaisir aujourd'hui.
Vas-y, mon père, quand même.
Toi, tu l'as fait, tu comprends rien.
Mais enfin, quand même, je vais en enfer.
Tu nous casses les pieds.
Bon, alors, vous voyez, donc j'existe. Le fait que j'existe, c'est que c'est l'extérieur, vous voyez. C'est pas les cellules, hein, c'est pas la mémoire grise, c'est pas notre lien avec Dieu qui me crée de manière vivante en m'unissant encore à l'âme et l'esprit. C'est le fait que Dieu me maintient dans l'existence. Je suis suspendu en ce moment à l'acte créateur de Dieu. Donc il y a un fil, c'est pas un fil bleu, hein. C'est pas un fil bleu, c'est pas un fil d'or. Le fait que j'existe, je suis suspendu vraiment à la créature de Dieu. Donc ça veut dire tout ce que je vis en moi, je prends globalement, parce que tout ça c'est vraiment de la bêtise, tout ce que je vis, ça c'est vrai, c'est pas très intéressant au total. Donc mais je prends en bloc, même s'il y a à la source de toute ma vie intérieure des choses belles. En particulier mon âme est belle, puisqu'elle est à la ressemblance de Dieu, mais ça je m'en fous complètement, c'est pas ça qui me satisfait, la preuve que ça m'enivre pas tout à fait. Alors, d'ailleurs le bouddhiste qui découvre cette âme-là, il n'est pas dans un ravissement parfait, hein, je peux vous le dire. Alors, donc je prends en main tout ce grouillement vital, ma vie, mon âme, et en avant là-haut. Extraordinaire, fusée du Saint-Esprit. Tu fais un acte d'adoration, tu es transformé, ton âme, vous voyez, c'est ça en fait l'acte d'adoration. Tu prends conscience que en ce moment Dieu est en train de te créer. Cette prise de conscience fait un peu comme une catapulte, vous savez, vous élargissez l'élastique jusqu'à ce que ça monte là-haut, et puis votre élastique, c'est, vous le mettez au fond de votre âme comme une pourportée, et vous lâchez, ça part là-haut, et hop, vous rentrez à l'intérieur de l'intimité de Dieu. Et une fois que tout est passé en dehors de vous, corps, âme et esprit, hein, pas seulement l'âme, hein, à ce moment-là, vous êtes là-haut, ah, ça y est, j'y suis. Ah bah oui, ça vous met du bonheur, hein, je vous dis, la dilatation est immédiate. Et cette dilatation, saint Augustin explique qu'elle vient de l'intellect agent. Et l'intellect agent, c'est la clé de la vie de l'homme. C'est la clé. C'est ce par quoi il va pouvoir entrer dans la vision béatifique, dans son intelligence contemplative. Donc chaque fois que vous faites un acte d'adoration comme ça, je viens de le faire là. Il y a quelque chose qui... une dilatation qui se fait, qui se produit même dans la lumière qui vous dépasse. Mais qui appartient à votre corps. Vous voyez ? Donc, bon, peu importe. Donc si vous associez des actes d'adoration métaphysique avec des actes d'adoration originels, donc des actes d'adoration contemplative, numéro 2, avec des actes d'adoration de votre liberté originelle, donc, ou si vous préférez le soubassement de votre espérance et le soubassement de votre vie contemplative, alors à ce moment-là, ça y est, si vous faites les deux en même temps, ça vous pouvez être sûr qu'il y a l'amour qui vient aussi. Et donc vous avez l'amour, la charité, vous avez l'espérance, vous avez la foi, et les trois œuvres, comme dit Saint-Hildegarde, de la foi, l'espérance et de la charité, spiritualisent l'unité de votre corps, de votre âme, de votre esprit. À chaque fois, donc, vous faites un acte d'adoration complet, il y a évidemment un acte de spiritualisation du corps. Donc, la vérification à faire, c'est qu'il faut bien que ce soit le corps. Pour que ce soit le corps, c'est donc à partir de votre mémoria dei qui suractive spirituellement votre génome, dans la mémoire génétique, dans la mémoire ontologique, et d'autre part, les sens externes. Donc, pas comme ça, hein, surtout pas comme ça. En ce moment, Seigneur, je t'adore.
Bouddha.
Profondément.
Bouddha.
Non. Non.
Pardon, mais ça reste l'intellect argent. C'est quoi
exactement? On a trois puissances de vie spirituelle, la volonté profonde, le cœur profond, l'intelligence contemplative, c'est l'intellect argent, et c'est pas l'intelligence réflexive, l'intelligence cérébrale, l'intelligence rationnelle, l'intelligence mentale. C'est l'intelligence humaine, quoi. C'est l'intelligence contemplative, spirituelle profonde. Donc première manière de spiritualiser le corps, c'est par l'adoration. Donc la technique d'adoration qui embarque le corps, c'est l'association de ces deux, d'accord. Puis faire bien attention qu'il y ait les sens externes ici, et le génome là. D'accord. Quand je dis génome, innocence divine, hein. Oui, originelle. Innocence divine, originelle, d'accord. Si en plus vous vous associez à Jésus, hein, ou à la source vivante de l'Immaculée Conception, c'est encore mieux. Parce qu'en ce moment-là, c'est une spiritualisation et une sanctification. À chaque fois. Si vous faites ça, là, cette association, 7 fois par jour, je vous dis, dans 9 mois, c'est fini. C'est fini. Dans 9 mois, vos problèmes sont terminés. Je parle sur le plan, vous voyez, des infiltrations possibles, sans que vous en ayez conscience, bien sûr. Ce qui serait par derrière, sans que vous en ayez conscience, c'est fini. C'est-à-dire, vous devenez contemplatif. Enfin, c'est Thérèse d'Avila qui dit ça. Hein. Ça y est, vous êtes devenu contemplatif. On vous donne 9 mois. Faites ça 7 fois par jour. 7 fois par jour, c'est pas long, hein. Ça vous prend 4 secondes à chaque fois. 4 fois 7, 28. Vous prenez beaucoup plus de temps chaque jour pour vous brosser les dents. Enfin, moi, parce que moi. Mais c'est ce que j'explique aux enfants. Quand je leur fais le catéchisme, la première leçon que je leur fais, je leur dis, je vous préviens, il faut que vous priez au moins 8 heures par jour. Hein? Alors, je leur dis d'abord pour la prochaine fois, vous prenez votre montre, ils ont tous une montre maintenant. À chaque fois que vous allez au cabinet, si j'ai envie d'aller faire pipi, faire tralala, faire trilili. Bon, alors, vite, prenez votre montre, calculez, vous montez, rentrez, fermez la porte, vous asseyez sur le pot, vous revenez à votre place, vous calculez. Bon, et puis vous faites l'addition dans la journée. Vous faites tout ça au moins une fois par jour, au moins une journée, pour calculer le total. Ben, le total, c'est toujours entre 20 minutes et. Si tu as prié, oui, c'est 20 minutes à peu près. Ben oui, sans compter, genre, qu'est-ce qu'on se les dents, la douche, chute, le rimel, machin, ça, voilà, on passe à 3 heures. Voilà. Moi, je connais des gens, je vous assure que c'est vrai, qui passent à la douche 3 fois par jour. J'en connais.
Mais oui,
j'en connais. Je connais des gens qui se douchent tous les jours. Je connais même des gens qui se frapper la tête sur les murs. Alors, je pense juste les excréments. 20 minutes. 20 minutes. C'est 20 minutes. Dans une journée, ouais. 20 minutes, si, 20 minutes. Alors, maintenant. Donc, quand tu vas te trouver devant le jugement dernier, mon petit enfant, hein? Toi, tu es mignon, ta petite tronche, Nini. Mais oui, mon bébé. Oh, que t'es belle, t'es jolie. Toi, tu aimes Jésus. Oh, oui, je l'aime, Jésus. Ah bon, 20 minutes. Ah, 20 minutes pour te tribiter. Ah bon. Alors, maintenant, la prière, ça fait combien de minutes? Donc, sur la balance. Oh, j'ai prié le matin, le soir. Ouais, j'ai prié beaucoup Jésus. Ouais, ça a pris combien de temps? Oh, tu calcules bien, ça fait 3 minutes. Donc, tu as aimé ta mère 7 fois plus que Jésus. Tu as aimé ta mère 7 fois plus que Jésus. C'est pas très sympa pour Jésus, ça. Alors, je te dis, c'est pas sept fois plus, c'est le contraire. Il faut aimer Jésus sept fois plus que ta merde. Alors pour ça, il faut 8 heures par jour. Ah, c'est facile. Tu leur apprends du coup, pendant qu'ils s'endorment, à faire un acte d'adoration. Mmh. Or, quand ils s'endorment, l'esprit, lui, il dort pas.
Et il fait 8 heures.
Et il fait 8 heures.
Jusqu'au lendemain matin.
C'est pour ça que c'est un grand péché de ne pas faire sa prière du soir, de ne pas s'endormir en priant. Un très grand péché. Et moi, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petit. Tu ne fais pas ta prière du soir. Et du coup, la prière du matin, parce que du coup, bah, le matin, tu te réveilles, bah, automatiquement, tu dis, Seigneur, voilà, je suis là. Hein. Bon, automatiquement. Donc, s'il n'y a pas la prière du matin et du soir, c'est sûr que tu es en état de péché mortel. C'est un péché mortel. Hein. C'est un péché mortel. Hein. C'est élémentaire, ça. Bon, alors, donc, deuxième condition pour spiritualiser le corps, c'est de prier 8 heures par jour. C'est de préférer Dieu à sa mère. C'est très simple. Alors, pour ça, on conseille une deuxième chose, c'est d'utiliser les sacramentaux, d'utiliser les chapelets, d'utiliser une croix. Je prends une croix, je la prends bien dans ma main, je m'endors avec, c'est tout. Il y a le sens du toucher, vous comprenez? C'est rien. Mais c'est tout. C'est rien, vous voyez. Mais tout est là, je veux dire, je prends le chapelet, je l'ai dans ma main. Je tiens la main de Marie. C'est pourquoi? Parce que c'est un sacramental. C'est pas un objet. C'est pas une magie. C'est un sacramental. Et c'est le sens externe. Je vous assure que si vous faites ça, vous faites bien attention. Vous dites voilà, toute la nuit, c'est avec Jésus. Je vous affirme que assez vite, vous allez voir que quand vous vous réveillez le matin, vous avez toujours le chapelet dans la main. Hein. Toujours, hein, ça c'est certain. Hein. Ou un crucifix, c'est des choses bêtes, vous savez. Mais là, c'est pour ça que j'ai été toujours un peu surpris de voir tous ces mysticonagos qui disent des prophéties pour la fin du monde, hein, qu'il faut avoir beaucoup de sacramentaux, qu'il faut avoir un chapelet, qu'il faut tenir le chapelet dans sa main, qu'il faut avoir la croix, etc. Bon, on peut avoir la croix et tout. Mais oui, mais pourquoi? Parce que la guerre va se faire sur le plan du corps. Donc il faut que spiritualiser tout le temps notre relation avec Jésus avec les sens externes. Vous voyez, donc ça c'est, faut bien comprendre, quand on va prier par exemple, que ce soit à la messe ou ailleurs, vite je fais faire comme Jésus, je vais lever les yeux vers le ciel, je vais lever les yeux vers le ciel, eh oui, je vais lever les yeux vers le ciel, ou vers Jésus Eucharistie, mais je vais lever les yeux vers le ciel, c'est les sens externes qui jouent un rôle très important, je vais... Entendre quand je fais oraison, entendre le silence du Saint-Esprit. Il faut entendre le silence du Saint-Esprit. Entendre avec ses oreilles externes le silence vivant du Saint-Esprit, le souffle. Et il faut utiliser les sens externes, d'accord? La saveur de l'unité du Père et du Fils. L'odeur du Verbe éternel de Dieu, c'est l'épouse, de l'époux. Vous voyez? Bon, ça, c'est le numéro 2. Deuxième moyen, utiliser la nuit pour spiritualiser le corps. Pourquoi? Parce que dans la nuit, eh ben, il y a un certain nombre de régulations, d'ailleurs physiques, qui sont en repos, d'autres qui sont en réceptivité. Et du coup, il y a quelque chose qui donne une certaine constance dans les activités externes de la spiritualisation. Hein? Donc voilà. Donc il y a une prière véritable du sommeil. Hein? Et on s'entraîne du coup à ce que Marie a vécu dans la dormition. Hein? On fait en sorte que notre sommeil soit quelque chose qui se rapproche de plus en plus du corps immaculé de Marie, de la dormition à l'Assomption. Mais ça, c'est quelque chose de tout simple. Je m'excuse de donner ce détail qui est tellement presque puéril que... Bon. Alors, troisième manière de spiritualiser donc la spiritualisation du corps. Le troisième moyen de spiritualiser du corps, bien sûr, c'est de vivre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, des fruits. Des sept fruits
des sacrements. Ah, les sept fruits des sacrements, voilà, dans mon parcours, dans ma vie de tous les jours, je vais me nourrir, je vais fréquenter les sacrements, je suis pratiquant bien sûr, hein, je suis en état de grâce, c'est évident, mais donc je suis en état de grâce, voilà. Donc, je reçois l'Eucharistie, je me suis confessé il y a 3 semaines, je vais recevoir dans le futur sacrement de mariage, ou je l'ai reçu, ou, j'ai entendu le pape donner son enseignement sur la sponsalité, ça. Je prends, c'est quelque chose d'extraordinaire, comme, dans l'oraison, hein, attention bien sûr, dans l'oraison. Mais c'est toujours 2 par 2. Hein. Donc, c'est le fruit des sacrements, voilà le premier apôtre. Et le deuxième apôtre, c'est l'oraison. C'est dans l'oraison, je vais faire oraison. J'ai donné une demi-heure à Jésus, à Jésus chaque jour. Et c'est dans l'Apocalypse, hein, au moment du dernier combat contre le dragon. Il se fit un silence d'environ une demi-heure. Et comment les pères de l'Église commencent ça, hein? Il faut au moins une demi-heure, chaque jour. Il se fait un silence d'environ une demi-heure. Ça, c'est le grand combat final. Dans le grand combat final, le silence d'environ une demi-heure. Dans ce silence, t'es pas à la messe. T'es pas à confesse. T'es pas dans le lit de ta femme. Bon, alors, t'es où? Alors, eh ben, tu es dans la spiritualisation du corps. Pourquoi? Parce que tous les sacrements sont la présence réelle de ce qui unifie tous les membres vivants du corps mystique vivant dans le corps physique vivant, Jésus vivant. C'est une compénétration physique dans le corps mystique, dans le corps spirituel vivant, physique de Jésus vivant. Alors, c'est quand même... Et du coup, tu spiritualises ton corps, pour le coup, mais à condition de vivre du fruit des sacrements. Alors, c'est pour ça que je conseille personnellement, quand vous faites oraison, quand vous démarrez l'oraison, bah, vous pouvez bien sûr prendre les oraisons de Sainte Brigitte. Hein. Vous pouvez prendre les oraisons de Sainte Brigitte, ça, vous êtes autorisé à prendre les oraisons de Sainte Brigitte, ça c'est possible. Mais quand vous aurez fini les oraisons de Sainte Brigitte dans l'année prochaine, hein, alors qu'est-ce que vous faites? Remarquez, vous prenez 7 secondes, pas compliqué, 7 secondes, vous comprenez 7 secondes, voilà, 7 secondes, voilà, et vous prenez, la présence réelle de ce qui nourrit Dieu le Père. La présence réelle de l'Eucharistie, c'est ce qui nourrit Dieu le Père. C'est ce qui nourrit. Dieu se nourrit de Dieu. C'est le fruit du sacrement de l'Eucharistie que vous avez reçu dimanche dernier, ou il y a 3 jours, ou le matin. Donc, vous reprenez votre action de grâce qui a duré seulement un quart d'heure, ou 10 minutes seulement, ou 5 minutes seulement, ou même 1 minute seulement. Vous la reprenez, même 2 jours après, hein. Vous avez toujours, hein, dès que vous avez communié le sacrement, vous n'avez pas eu le temps de faire l'action de grâce, vous inquiétez pas, la ref attend. Vous avez reçu la présence réelle à la communion pour que, dès que l'oraison arrive, la ref puisse, la présence réelle, il n'y a plus le sacrement, il est digéré. Mais vous inquiétez pas, la ref attend. C'est à ce moment-là que vous communiez. La communion théologale de l'enfant de Dieu, c'est à ce moment-là. Donc, vous reprenez votre action de grâce, même si c'est le lendemain.
Et vous en servir jusqu'à la prochaine Eucharistie.
Jusqu'à la prochaine Eucharistie, tout à fait. Elle resserre tout le temps, tout à fait. La reste, vous la reprenez. Vous la reprenez, et ça y est, la vraie communion commence. La vraie communion, avec tout ce qui nourrit toute l'Église, de toute la surface de la terre, de tous les tabernacles, de toutes les communions, de tous les temps. Jusqu'à la fin du monde, et surtout ce qui va nourrir les noces de l'agneau dans le retour du Christ, qu'on sera emporté à sa rencontre dans les airs, et qu'on va communier de la dernière communion des noces de l'agneau avant le jugement dernier, avant la résurrection glorieuse de tous. Voilà, c'est ça, et ça nourrit, c'est cette nourriture qui va nourrir de manière effervescente le Saint de Dieu le Père, qui va se nourrir du Verbe de Dieu dans cette glorieuse nourriture.
cette nourriture qui se répand au-delà de la terre, au-delà des temps, qui se répand. Vous voyez, je prenais une seconde pour ça. Vous pouvez prendre deux ou trois secondes si vous voulez. Cinq secondes si vous voulez. Et puis, vous prenez ensuite le fruit du sacrement. Vous prenez les sept sacrements. Même si vous ne savez pas comment ça fonctionne, le fruit de chaque sacrement, ceci dit, vous pouvez aller vous intéresser exactement quel est exactement le fruit de chaque sacrement, etc. Et comment est-ce qu'on fait pour l'activer surnaturellement, de manière vitale, réelle, physique, réaliste, en allant dans le site catholique du Point Net pour voir, par exemple, comment on fait avec le fruit du sacrement de confession. Par exemple, c'est tellement simple, écoutez, franchement. Ma dernière confession, c'était il y a un mois, je reprends cette absolution, je reprends avec la ferveur la plus grande possible, voilà, vous faites un acte d'amour de Dieu le plus grand, le intense possible, ce sera votre pénitence, ah bon, très bien, alors je fais présence réelle, et toute la miséricorde du Seigneur, tout ce que vous liez sur la terre, tout ce que vous déliez sur la terre est délié dans les cieux, et vous déliez dans toutes les âmes de tous les hommes, non seulement d'aujourd'hui, mais... que le sang de Jésus les précipite. C'est extraordinaire, ça. Vous voyez, cette espèce de miséricorde, les trois miséricordes dont je vous ai parlé hier. C'est un fruit du sacrement de confession. Donc, c'est pas très compliqué, ça. Hein? Bon, alors, c'est pas très compliqué. Vous avez trois secondes pour faire naître et donner tout son déploiement au fruit du sacrement de confession, pour qu'il devienne catholique. C'est-à-dire qu'il répande sa fécondité effective, totale, universellement. Ça qui fait qu'on est catholique, hein. Sinon on est protestant, hein. On est calviniste. Hein. Alors, si on ne fait pas ça, on est des apostats. Hein. Alors maintenant, vous pouvez commencer, vous faites avec le troisième sacrement. Ah, la sponsalité. Ah, ça c'est intéressant, la sponsalité à marquer bien. Hein. Mais je le garde pour le troisième. Je le garde en réserve ici. Parce qu'il est spécial celui-là. Bon, alors je prends, mais bon, prenez surtout l'Eucharistie, la confession, la confirmation, le sacrement des malades et le sacrement de baptême. Pour ici. C'est facile. Vous prenez, allez, 3-4 secondes pour chacun des sacrements. Et si ça dure plus que 4 secondes, ne vous inquiétez pas, ça ne mord pas sur le temple d'oraison. Dès que vous avez démarré sur le fruit des sacrements, vous êtes dans l'oraison. Donc si vous restez dans le fruit du sacrement de l'Eucharistie une demi-heure de suite, votre raison est très bonne. De toute façon, le fruit du sacrement de l'Eucharistie se répand silencieusement. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Mais vous commencez. Ordinairement, tant que vous n'êtes pas arrivé au cinquième demeure, vous ne restez pas suspendu une demi-heure sur le fruit du sacrement de l'Eucharistie. Donc vous passez ensuite au sacrement de confirmation, puis après au sacrement de pénitence, puis après. Et puis à un moment, vous laissez, au bout des 7 secondes, si vous êtes très très sommaire, ou 30 secondes, ou une minute, vous êtes répandu dans la présence réelle. À ce moment-là, vous laissez la politesse au Saint-Esprit de continuer le travail jusqu'à la fin de la demi-heure. Mais attends, si c'est la 29e minute, tu ne bouges pas. Il y a le téléphone qui sonne, tu ne bouges pas. Cette demi-heure est réservée à Dieu seul.
Écoutez, je vais vous dire. L'oraison. Le secret de l'oraison. C'est pas compliqué. 98% de l'oraison, c'est le temps qu'on donne à Dieu. Si on est fidèle.
Oui, bien sûr. Ouais. Si j'ai décidé de donner une demi-heure, je reste pendant la demi-heure. C'est dans la nuit. C'est des cloques d'impureté qui sortent. C'est des trucs.
Je m'en fous. Ce temps est pour Dieu. Je m'en fous. C'est le temps de donner à Dieu. Et ma foi, si je suis un salaud et que ça se voit, tant mieux. Tant mieux, j'existe en Dieu, c'est Dieu. Et donc mon temps, qui est un temps de salaud, eh bien très bien, eh bien il existe pour Dieu. Alors du coup c'est son éternité qui en prend possession.
C'est le temps qui se met en contact avec l'éternité de Dieu, et donc ce temps-là, je n'y touche pas. Qu'est-ce qui se passe dedans? Ça n'a aucune espèce d'importance.
C'est vrai que je vais essayer quand même de faire en sorte de démarrer avec l'esprit du Saint-Esprit.
Après, ce que Saint-Esprit fera, si par exemple vous recevez du dedans de vous, ici là, regardez, si vous avez fait les sept, du coup vous avez une irruption du Saint-Esprit là, du centre, grâce sanctifiante, donc grâce centrale, grâce habituelle, grâce substantielle. Ce n'est pas une grâce actuelle charismatique. Hein. Vous ressentez rien. D'accord ? Mais vous recevez une effusion du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous avez une baignoire remplie de grâce, et que du dedans, là, au fond de la baignoire...
Tu connais
les baignoires ? Non, non, les baignoires, ça fait 30 ans que je ne sais pas ce que c'est. Alors, mais la remplie... Ben, chacun s'occupe de ce qu'il veut. Si tu veux te nourrir ta crasse, c'est ton problème. Alors, donc, que tu mets... Tu plonges ton tuyau. Tu plonges ton tuyau. C'est-à-dire, tu prends le fruit des sept sacrements. Tu plonges ton tuyau au fond de la baignoire en mettant... Tu mets une eau pure dedans. Au fond de la baignoire. Et puis, la baignoire déborde. Qu'est-ce qui déborde de la baignoire? La crasse. Mais l'oraison, c'est exactement ça.
C'est exactement ça. Alors, pendant la demi-heure, tu vas te sentir au ciel, quoi. Imbécile. Mais c'est ce qui était rentré. Mais ça sort. Alors, laisse-le sortir tranquillement. Ah, j'arrête l'oraison parce que c'est exactement le contraire. Mais non, c'est la purification. C'est la purification du concupiscible. C'est la purification de l'irascible. C'est la purification de la sensibilité. C'est la purification de l'esprit. C'est la purification de la foi. C'est la purification. C'est la purification. C'est l'oraison.
Si par exemple tu reçois ici une effusion de l'esprit d'intelligence. Il y a sept dons du Saint-Esprit. Laisse-le faire. Sois bien élevé. Donc tout ce qui va sortir, c'est tout ce qui est contraire à l'esprit de pureté. C'est formidable, hein? Ça fait pression. Alors ce qui sort, c'est tout ce qui est contraire à l'esprit de pureté. Et voilà comment on fait l'expérience. Tous les dons du Saint-Esprit purifient. Certains qu'on reconnaît les dons du Saint-Esprit, sauf l'esprit de sagesse, où il y a effectivement une saveur pacifique, indicible, extrêmement délicate, à peine perceptible, mais pourtant extraordinaire. Ça, c'est vrai. Les dons de sagesse, c'est vrai qu'on éprouve quelque chose dans l'esprit de sagesse. Ça, c'est vrai. Mais sinon, tous les autres dons purifient. Tous les autres.
C'est-à-dire que
l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de science, de crainte, esprit de
paix. On ne sait pas forcément. C'est le don qui nous purifie.
Tu en parles à ton père spirituel, il dira, mais oui, mais ça c'est rien.
C'est rien, mon tout petit, c'est l'esprit de science.
Bon, alors, donc maintenant...
Donc c'est toujours désagréable, quoi.
Non, c'est pas désagréable. Quand tu es dans la... Quand tu vas te trouver dans l'union, dans les grâces unitives, que tu seras obligé de passer aux grâces d'abandon, au-delà de l'horizon de quiétude, quatrième, tu passes de la quatrième à la cinquième demeure, c'est-à-dire pratiquement tout le monde. Je veux dire, tout le monde passe à la quatrième, cinquième demeure, sinon coup de pied aux fesses, parce que, on va pas rester à la première demeure, quand même, non ? Alors, si tu vis de Marie, forcément, tu passes à un moment à la cinquième demeure. Sauf si tu te douches trois fois par jour. Non, mais c'est vrai, il faut s'occuper de son âme, il ne faut pas s'occuper trop de son... C'est les gens, ils sont malades. Hein. Bon, mais arrête avec ça. Ici, quand tu vas à la cinquième demeure, qu'est-ce qui se passe s'il y a... Par exemple, tu as une colère, une tristesse, mais alors, une colère, parce que moi, c'est la colère que j'aime bien parler. Mais une colère noire, mais là, toi, c'est... Hein, quelquefois on est en colère. Ou la jalousie, t'as une jalousie, mais ça se salope pas, je le boufferais. Quelquefois on a la jalousie, c'est vrai, les femmes, c'est très féminin, ça, la jalousie, c'est terrible. Ça te ronge. Dans l'oraison, ça te ronge. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois réaliser l'union simple, ça s'appelle l'union simple. C'est pour passer de la quatrième à la cinquième demeure. L'union simple, tu fais un acte d'adoration, c'est submergé dans des trucs complètement noirs, gluants. qui te détruisent parce que c'est pénible, t'es en colère, t'as la haine, pas possible contre cette nana, je sais pas quoi, bon, contre ta fille par exemple, ou contre moi, par exemple, bon, très bien. Alors, non, en général non, mais enfin,
impossible.
Oui, oui, parce que moi, je ne suis pas comme Dutronc, me baigner dans mon bain tous les matins. Alors non. Et voilà. Donc tu fais un acte d'adoration de manière à ce que quand même, tu puisses un petit peu émerger quand même, un petit peu au-dessus du niveau de la mer, tu vois, mais en dessous, ça déconne complètement en dessous, pendant une demi-heure, hein, d'accord. Et tu dis, qu'est-ce que ça roule? Bon, très bien, c'est pas grave, je reste une demi-heure comme ça, puisque tu, le Seigneur le permet, ça sort, n'est-ce pas? Comme une baignoire qui a enlevé le truc. Au bout d'une demi-heure, c'est parti. Tu dis, ben voilà, ça y est, l'horizon est fini, merci Seigneur, à demain. Hein, voilà. Ça s'appelle l'horizon d'union. L'union simple, c'est une union, on appelle ça l'union de volonté. L'union de volonté. C'est-à-dire que tu ressens rien, c'est pas une union d'intelligence, c'est pas une union contemplative, c'est pas une union d'âme, puisque tu es dans les ténèbres. C'est pas une union, c'est une union de volonté. Tu dis, puisque le bon Dieu veut que ce soit purifié en ce moment de cette manière, moi je le veux aussi, c'est une union de pure volonté. Et c'est comme ça que ton cœur devient, le cœur du Christ devient un. Si tu ne passes pas par là, il n'y a jamais d'union de volonté avec le Christ. Et donc tu ne peux pas passer à la sixième demeure, c'est-à-dire que s'il n'y a pas l'union des cœurs, tu ne peux pas passer aux fiançailles. Impossible. La sixième demeure, c'est les fiançailles, et sans les fiançailles, il n'y a pas le mariage spirituel, bien entendu. Bon, alors maintenant, ça c'est du catéchisme élémentaire. Alors donc maintenant...
Et donc si on ne vit pas sur terre, on verra un peu...
Ah ben attends, si tu ne vis pas sur terre, c'est au purgatoire, mais tu multiplies par 100 le temps qu'il faudra y prendre. Et l'intensité.
Sauf si on a une...
C'est le Seigneur qui l'a dit, on est sûr que c'est multiplié par 100, et en temps, et en intensité. C'est Jésus qui l'a dit, le centuple. Donc, t'as pas à discuter, c'est multiplié par 100. T'es triste, etc., tu peux te libérer de ta tristesse sur la terre. Ah non, bah tu te suicides, et bien c'est multiplié par 100, en temps et en intensité après. À condition que tu sois sauvé, parce que ça c'est un autre problème. Alors donc maintenant. Mais moi j'aime bien le fromage de gruyère, parce qu'au purgatoire, il n'y a pas de fromage de gruyère. Donc je préfère me purifier et pouvoir une demi-heure par jour et puis bouffer du fromage de gruyère que d'aller au purgatoire sans fromage de gruyère, tu comprends? Bon, alors non, moi je suis pas maso. Alors. Enfin, j'étais quand même à une heure du Carmel du Proc. Et voilà, donc j'étais là, c'est pas prêtre. Hein, donc il y avait plein de lumières dans la chapelle du bas, qui était dans la cave, des petites lumières comme ça, tabernacle là-bas au fond, des icônes avec des petites lumières et tout. Puis au bout de 15 jours, j'avais pas eu de fromage de gruyère, hein, j'avais rien eu. Moi, le fromage de gruyère, si j'ai pas de fromage de gruyère, c'est comme...
Hein? C'est ta drogue.
J'en sais rien, mais enfin bon, quand même, bon, je pensais pas au fromage de gruyère, mais c'était le pain. Bon, alors, non, mais j'aime bien tout, j'aime bien tout, j'aime les fleurs, j'aime tout. Mais
le gruyère.
Mais j'aime bien aussi le gruyère. Bon, mais bon, alors, donc j'étais là, et puis je regardais, j'ai le Seigneur dans le tabernacle, là-bas, au fond, s'il y avait 10 mètres, hein, parce qu'il était assez grand. Voilà, et puis à un moment donné, je commence à avoir ma première apparition entre le tabernacle et moi, à peu près à un mètre de hauteur, quoi, et donc, voilà, il y a une espèce de lumière vivante, quoi, qui était là, je regarde la lumière vivante, je dis, tiens, je savais pas que c'était comme ça une apparition, rien de bizarre. Et puis petit à petit, vous savez, dans l'apparition, c'est beau, l'apparition, c'est avec une lumière que vous ne pouvez pas imaginer. Hein, c'est pas des lumières de la terre, vous comprenez? C'est... Alors.
Mais je vois tes paroles.
Je peux rien, mets-toi à ma place, je vois une apparition. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette lumière? Et puis petit à petit, je vois. Mais je rêve pas, c'est un fromage de gruyère. mais c'est un fromage de Gruyère, c'est grand comme ça, je pense.
C'est comme dans le désert quand on voit.
Oui. Des... Non. Moi j'étais dans le désert, dans le Sahara, j'étais pendant des années.
Mirage,
je peux vous dire que c'était pas du tout la même chose. Non, c'était un fromage fabriqué avec une lumière vraiment surnaturelle, il n'y a pas de doute. Hein. Le fromage de Gruyère, il était tout vivant, tout lumineux, tout palpitant. Il y avait des trous, il dégoulinait aussi, il dégoulinait de grâce, quoi, je ne sais pas comment vous dire. Et alors. Non, de grâce. Non, oui, sans rigoler. Alors, quand même. Alors, j'ai regardé ça et j'étais rassasié. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'au ciel, on n'aurait pas besoin de prendre beaucoup de fromage de Gruyère, puisque Dieu est, comme dit le livre des Proverbes, va s'adapter à nos goûts. Et Dieu est nourriture, vous voyez, donc j'étais parfaitement rassasié, vous voyez. Donc ma première apparition, c'est un fromage de Gruyère. Alors bon, c'était pour faire comprendre. Bon, alors très bien.
Et c'est pour ceux qui se la prennent 4 fois par jour, il leur faut au moins une apparition de
Non, alors eux, quand ils ont leur douche de feu dans le tartare. Alors, il ne faut pas confondre. Alors, donc, très bien. Non. Ceux qui se sont occupés de leur peau, ben vous allez voir comment le tartare va s'occuper de leur peau. Alors, faut s'occuper du Seigneur, pas s'occuper de sa peau. Alors, donc maintenant, ici, je veux dire, troisième, quatrième opération. Donc, première chose, deuxième le sommeil, troisième l'oraison. Donc le jour, une demi-heure d'oraison, la nuit, le sens du toucher et le recueil dans le fruit des sacramentaux. Et bon, très bien. Maintenant, l'image ressemblance de Dieu. Ah, alors ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important. Vous n'oublierez pas qu'il y a encore deux autres trucs. Ça fera 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui. Ah, 5, c'est 5 en tout. Il faut dire que mon truc est bis, là, quelque part, avec la sponsalité. Donc la sponsalité, c'est qu'est-ce qu'on fait de la différenciation sexuelle. Qu'est-ce qu'on fait dans notre corps, de notre identité sponsale. Je suis, il faut absolument, dans la rétractation du péché originel accentué par les rétractations du péché personnel, la contraction est si forte que je perds mon identité sponsale. Donc ma féminité est perdue, ma virilité est perdue. Je suis transformé en passoire et en serpillière. La passoire, c'est les hommes, la serpillière, c'est la nana. Donc, c'est pas compliqué. Eh oui. Alors. Mais oui, c'est pas ça la serpillière. Donc attention. Alors, par exemple, pour vous dire, non, mais c'est pas le temps de trop vous expliquer en détail. Bon, mais ça c'est. Mais si vous voulez approfondir vos connaissances dans le domaine, vous allez sur un site que je connais bien, ça s'appelle.
Le capitulaire.
Ah, mais vous pouvez aller aussi, oui.
Quel chapitre ?
Sur vatican.va.
Non,
en français. Vatican.va, vous allez sur le Saint-Père. Dans le Saint-Père, vous prenez Jean-Paul II. Dans Jean-Paul II, vous prenez discours du mercredi. Dans discours mercredi, vous prenez 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Une heure par jour où il a enseigné comment on fait pour mettre en place la signification sponsale du corps. Dès qu'il est arrivé sur le trône de Rome, la seule chose qu'il a enseigné à l'Église pendant 5 ans, c'est comment on fait pour spiritualiser la différenciation sexuelle dans le corps humain par la mise en place de la signification sponsale du corps humain, de l'homme et de la femme. Alors donc, c'est le catéchisme de base de Jean-Paul II. Donc, vous le savez, parce que quand même, vous êtes la génération de Jean-Paul II, donc vous avez tous lu ça. Bon, mais si vous voulez, Vatican.va, Jean-Paul II, discours du mercredi. Bon, alors, mais si vous voulez un résumé merveilleux, adapté, vulgarisé, alors, vous allez sur un autre site que je connais bien, qui est au premier livre parade des sites religieux, c'est un thème spirituel, ésotérique et tout ça, et il s'appelle http://catholique.net, vous allez sur la bibliothèque et vous prenez sponsalité. Sponsalité. Ah, bon, très bien. Bon, en deux mots.
En deux mots.
Mais attendez, c'est quand même quelque chose de quand même ça. C'est complètement géant.
La spontanéité, c'est géant.
C'est géant. Il faut mettre en place la signification spontanée du corps. Comprenez bien que s'il y a eu une contraction du point de vue spirituel dans le corps, ça veut dire que la partie votre instinct sexuel et la partie instinctive du à cause de la contraction du péché originel et surtout le péché symbiotique collectif, etc. Il y a une contraction qui est terrible, parce que donc au lieu que le monde spirituel de votre identité masculine et féminine circule bien dans votre corps, il y a une contraction qui s'est faite, d'accord, et circule par là. Donc ça veut dire tout le point de vue instinctif qui est là, tout le point de vue sensible, psychologique, psychique qui est là, ne fonctionne pas dans la masculinité et la féminité. Il ne fonctionne dans la masculinité et la féminité que dans la partie spirituelle qui pourrait irriguer votre sexualité. Donc tout le problème du pape, c'est d'expliquer aux gens comment on fait pour que la masculinité, la virilité spirituelle vienne prendre votre corps, votre instinct sexuel de l'intérieur pour l'assumer et lui donner toute sa force. Si vous l'assumez et vous ne lui donnez pas toute sa force, il n'a plus d'unité. C'est pour ça que ça fait passoire. Allez. C'est très ennuyeux, évidemment. Ben oui. Bon, alors. Vous comprenez que si ça, c'est pour le point de vue de l'instinct. Maintenant, pour le point de vue ici du psychique, du ressenti, de l'émotionnel, du passionnel, de votre. J'ai des fantasmes. Je les aime bien menus avec des petits. Bon. Non, vous voyez, j'ai des fantasmes, je l'imagine bien, c'est l'imagination, quoi. J'imagine le truc. Je vis des rêves aussi, bon, peu importe. Mais si c'est dans le domaine du psychique, le problème de la dégradation du péché originel, accentué par le péché symbiotique, attention, me fait vivre la chose psychologiquement, ma virilité, ma féminité ou ma masculinité, ou l'union de l'homme et de la femme, dans ma manière de le voir, psychologiquement. Mais à ce moment-là, si c'est le centre de gravité de ma perception de ce qui est la communion des personnes et sur le plan psychologique, alors là, à ce moment-là, je tombe dans un amour de similitude. Amour de similitude. Pourquoi ? Parce que au niveau passionnel, nous avons exactement les mêmes impressions analogiques, sensibles, passionnelles, sentimentales, romantiques que sur l'homme et la femme. De sorte que nous avons, du point de vue de la sensibilité psychologique, psychique, animale, quelque part, bizarrement, nous allons mettre le centre de gravité dans un amour de similitude par opposition à l'amour de complémentarité et d'affinité. L'amour spontané est un amour de complémentarité et d'affinité. Parce que ce que je donne et ce que je reçois sont en affinité et en complémentarité, et il n'y a rien de similaire. Donc je ne réponds pas par la réciprocité à ce que je reçois et après tout à son tour. Ça, c'est un amour de similitude, c'est un amour homosexuel. C'est un amour identique, un amour de similitude. Donc il va falloir spiritualiser, humaniser notre identité sexuelle, notre comportement sexuel, notre vie d'union, notre vie de communion avec l'autre, notre vie de communion sponsale avec Dieu. Parce que je dois me marier avec le monde de Dieu. Notre communion spontanée avec le Christ. Alors si je suis masculin, ça c'est une chose très intéressante. Si je fais oraison, donc cette fois-ci, si je fais oraison que je suis masculin, Saint Jean de la Croix, alors je m'unis avec le Christ dans un amour de complémentarité, avec toutes les forces de ma virilité masculine. Et alors à ce moment-là, il y a un truc qui se produit qui est très curieux, parce que dans le Christ il est masculin, dans son dans son incarnation, dans sa nature humaine, il est masculin. Mais oui, mais dans sa personne divine, il est féminin. C'est ce que le pape explique. Hein. Le pape explique que la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, c'est l'épouse en Dieu. La première personne de la Très Sainte Trinité, c'est l'époux. Donc, celui qu'on dit le Père joue le rôle de l'époux, le Verbe de Dieu joue le rôle de l'épouse. Donc Jésus, en tant que personne, avant la création du monde, est épouse. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fallait que ce soit la deuxième personne de la Très Sainte Trinité qui s'incarne, parce que l'amour entre l'humanité et la divinité devait être un mariage, et comme il devait prendre sa masculine, puisque c'était le nouvel Adam, il ne pouvait être que la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. C'est un mariage. Donc moi, quand je suis Saint Jean de la Croix, je fais oraison, et mon mariage corps, âme et esprit, c'est avec le Verbe de Dieu. C'est pour ça que toutes les opérations, c'est nuit, 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 nuit. Parce que si je suis Sainte Thérèse d'Avila, que je passe par les mêmes étapes de l'oraison, dans le mariage spirituel de toute ma féminité à l'intérieur de Christ, vous verrez, c'est très incroyable, c'est tout à fait étonnant, mais c'est comme ça. C'est chaque passage d'une demeure à une autre demeure, c'est un plongeon dans la lumière. Bon, bien sûr, il y a des purifications, mais un plongeon dans la lumière, purification. C'est extraordinaire la différence entre Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila. Bon, vous prenez l'ascenseur de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, celui d'enfant. Si l'enfant, c'est un petit peu différent, mais enfin, c'est très intéressant parce qu'elle, elle fait ça avec les innocents, avec l'esprit d'enfance. Elle vit l'oraison avec le corps originel, hein, l'esprit d'enfance. Donc, c'est un petit peu différent. Bon, alors, est-ce que vous avez compris que, quand même, quelque part, il faut quand même connaître médicalement, il faut pouvoir éduquer ses enfants, peut-être s'éduquer soi-même, je veux dire, à comprendre qu'il ne faut pas être... alors, je m'excuse, mais on est obligé de passer par des trucs un peu bizarres, parce qu'il y a des anomalies quand même. Donc les anomalies, alors par exemple les types aujourd'hui, ils vous disent ils sont tellement mal déformés, disons, tellement déformés dans leur virilité. D'ailleurs, les jeunes filles d'aujourd'hui, je pense qu'elles me le diront, tu vois ces types-là, tu dis, attends, tu ne veux pas y toucher, tu as l'impression de toucher de hein, c'est pas très viril, quoi. Hein. C'est vrai, écoute, c'est... Hein. non. Alors bon, c'est pas viril, c'est pas des mecs. C'est vrai. De toute façon, moi, je vois bien, quand je vois ces types-là, je dis, attends, si c'était une nana, je ne tomberais pas amoureux de ce mec-là, c'est pas possible. Hein. C'est une passoire, c'est évident. D'ailleurs, ça se voit tout de suite, qu'il n'est pas viril, le type. Bah écoute, tu vois le pape, même s'il est vieux, il est viril. Alors, comprenez, alors tu vas à l'armée, puis tu dis, attends, j'en peux plus, il faut que je me décharge. C'est cette histoire. Alors, tu vois, je suis avec ma femme, je dis, attends, moi j'en peux plus, hein. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est comme pour pisser, tu comprends? Et c'est comme pour pisser, c'est normal, mais il faut bien que ça... Et non, il ne faut pas que ça sorte, bien sûr que non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça les lois de la nature. Le vieux père Emmanuel me disait, non, enfin, attends, je vais t'expliquer. C'est tout simple. C'est le premier. C'est lui qui me l'a expliqué comme ça. Au moins, l'avantage des vieux, c'est bien. C'est comme moi. Voilà. C'est très bien. Si jamais tu es masculin, alors voilà, tu deviens amoureux. Bon, l'amour de Dieu, par exemple. Mais l'amour de Dieu, c'est amoureux, hein. Non, mais c'est vrai. Tout simplement, si l'amour te frappe comme ça de l'extérieur, tu es ému. Mais comment? Alors, si tu es ému, ça fait une commotion.
Ah, mais ça fait une commotion, ça fait pompe.
Et mon père, ça pompe quoi?
Une espèce de couillon, ça pompe. Ça pompe la semence qu'il y a dans les glandes. Est pompée par l'organisme et transformée en virilité, en sève vivante, en énergie vitale. Et c'est pour ça que les vieux paysans, eh ben, ils nous disaient, écoute, il ne faut surtout pas que ça sorte, sinon tu vas devenir sourd.
C'est tout à fait vrai. Parce que si ça sort, c'est la passoire, c'est dit. Ah, j'en peux plus. Hop. Alors moi, c'est ce que je dis aux mecs, je leur dis, attendez, vous me cassez les pieds. Vous croyez que le pape, lui, entre deux discours, ça y est, hop, j'en peux plus. Ah, non. Hein? Alors, non, attends. Ben oui, écoute, c'est vrai. Alors, c'est pas comme ça que ça marche. Les lois de la nature, c'est pas comme ça. Mais le médecin va dire, quoi? Tu te décharges pas? Ben, ça veut dire que c'est pas normal, c'est tout à fait naturel que tu te décharges. Le médecin qui dit ça, qui ignore les lois de la nature sur la sexualité masculine. Or, il se trouve qu'effectivement, si tu es, d'ailleurs tous les gens qui sont, les petits jeunes gens qui tombent fous amoureux d'une nana, si la nana elle est pure, hein, je veux dire, alors lui, je vous affirme, ils vont le dire tous, il se décharge plus. Sauf si la nana se laisse jeter comme un hippopotame, hein, ça c'est un autre problème. Mais sinon, puisqu'il y a de l'amour, du coup il y a une commotion. S'il y a une commotion, il y a l'aspiration de l'organisme.
Dis donc, voilà. Je prends le sécateur. Si tu coupes les serments du bas, la sève monte en haut. Et alors le paysan disait, ben voilà, c'est comme ça qu'il y a la sève humaine, il faut rester viril, les gens paysans. Mais si tu coupes pas dans mon niveau, tu pisses dès qu'on a besoin.
C'est quoi?
Ça donne du verjus, c'est imbuvable. Tu peux pas faire de... Et ça se garde pas.
Non, c'est tout.
Et ça, tu vois, bon, ça, déjà une vigne, c'est une plante. Si tu, c'est la nature. Si tu mets pas le travail, ça ne donne pas du bon. Alors, je veux dire, un homme, c'est plus qu'une plante, même. Alors, voilà. Bon, alors, non.
Mais évidemment, si tu n'as pas d'amour, si tu n'aimes personne, si tu as peur que quelqu'un t'aime, c'est sûr, ta virilité est foutue. Donc il ne faut pas avoir peur de l'amour, et tu apprends à ne pas avoir peur de l'amour en passant par les étapes 1, 2 et 3. Alors après, une fois que tu es passé par les étapes 1, 2 et 3, tu peux faire les exercices, les 4 exercices proposés par le Saint-Père, pour mettre en place la signification responsable du corps. Il propose 4 exercices. 4 respirations pour mettre en place la signification responsable du corps. Et vous comprenez que la nana, c'est pareil, vous dites la nana, attends, la nana est la petite ado, vous savez, elle est là, elle a son corps commence à se transformer, tout, l'acné, la pneumature, le machin, et puis elle est vachement sensible. Moi j'étais aumônier d'un collège, ça va être pas duré longtemps, je se louer. Bon, mais attends, la nuit dans les dortoirs, les surveillantes d'ailleurs trouvaient ça très rigolo, un pouvoir télékinésique tellement fort que les lits se baladaient au plafond, tout ça. Quand le corps d'une nana se transforme de 14, 15, 16 ans, un pouvoir télékinésique incroyable. Et c'est sûr, la nana se balade. Si tu es derrière ce trottoir à Paris, hein, elle se dit, tiens, elle le ressentit. Hein. Alors, elle se balade, elle sent que tu... Elle t'accroche, sans même te regarder, elle t'accroche. Elle sait que ça y est que tu l'as. T'as pas besoin de le voir. Vous voyez? Ça, c'est l'équivalent, hein. C'est l'équivalent, c'est de l'immaturité. C'est ça, vous voyez. J'accroche, vous voyez, je trémousse un peu du portillon et voilà. À ce moment-là, vite, tu prends une pomme, tu files une pomme en disant, au moins, quand elle a mangé la pomme, elle a vu que c'était une salope. C'est ça qu'il faut faire quand vous voyez une femme comme ça, une nana. Vite, vous lui donnez une pomme. Mais pourquoi tu donnes une pomme? Parce que comme ça, quand elle a pris la pomme, c'est là qu'elle a vu qu'elle était nue. Ah ouais. Alors donc, attends, c'est pas comme ça, vous voyez? Ça, ce mouvement-là, de pompe, c'est un mouvement masculin. C'est un mouvement de compaction, c'est un mouvement de d'illumination, de force pour le don. Et ce mouvement masculin est provoqué par l'amour spontané féminin, par le contact avec, le corps féminin, qui lui fonctionne selon les lois de la nature, pas selon les lois de Freud. Ici. Parce que la libération de la femme produit dans le corps de la femme une inversion des processus féminins d'opérer, qui finalement devient homosexuel, qui se rend semblable, accroche, etc. Bon, et finalement disperse et rend impossible la signification sponsale du corps masculin et féminin. Non, vous comprenez? Alors ça, c'est quand même très grave. Alors, ce mouvement-là, si vous voulez, ce mouvement-là, c'est celui du masculin, et ce mouvement-là, tout simplement, qui est un mouvement en fait de pureté, d'abandon. Vous aimez, donc c'est de pureté, de confiance, d'abandon, d'enfance. C'est le mouvement féminin. Donc si une femme vous aime beaucoup, qu'elle est très profonde, qu'elle est très pure, qu'elle est purement femme, qu'elle est vraiment femme, qu'elle est femme, quoi. Elle aime se retrouver dans sa source. Alors, elle s'abandonne tranquillement, gentiment, mais c'est pur. Hein. Donc, elle n'essaie pas d'attraper le dindon. Non, non, non. Elle aime. Elle est amoureuse. Elle s'aime. Elle fait confiance. Et la pureté. Et si le dindon pense que justement elle veut l'attraper, vite elle prend ses cutters, clac, elle lui coupe le zizi tout de suite. Hein, ça, au millimètre. Hein. Ah, ça, tout de suite, parce que, attends. Ah, alors, mais oui, c'est quand même trop bien. Alors, si vous dansez le slow avec la petite jeune fille de 18 ans, avec la belle musique, romantique, tout ça, la nana hyper pure, tu vois. Ah, et puis en plus, elle t'aime bien, hein, ça c'est sûr, elle t'aime bien. Bon, toi tu l'aimes bien aussi, mais enfin bon, c'est pas... Mais elle est follement... Vraiment, elle t'aime, tu peux pas savoir comment elle t'aime, elle pense qu'à toi, tu sais, d'accord. Bon, alors, tu passes le soleil, tu sais pas qu'elle est amoureuse de toi, bon, tu sais pas. Mais en plus, elle est hyper pure, attention, elle est hyper pure, il n'y a strictement pas la moindre nuance de d'impureté chez elle, ou de... Celui-là, il est pour moi, ou quoi, non. Non, c'est... Elle est contente, elle est femme, elle est pure. Elle est femme, quoi. Elle est féminine, c'est tout. Alors, elle est transparente, elle est limpide, elle est comme de l'eau, comme un ruisseau. Et une femme, quand elle aime, elle est forcément un ruisseau limpide, transparent, profond. Elle s'abandonne tranquillement dans le lit de son torrent. Elle danse avec toi, le torrent, le lit du torrent, c'est toi. Bon. Alors, tu t'aperçois de ça, tu dis, attends, j'ai pas l'habitude de ça, moi. Le mec, d'un seul coup, là, le mouvement d'amour de la femme incarné, naturel, stop, tu lui rentres dedans et il ne peut pas se décharger, là. Il n'a pas une tendance à se décharger, quoi, croyez-le bien. Elle enclenche du coup, c'est ce que le pape explique, elle enclenche du coup à l'intérieur du corps masculin un réveil naturel de sa masculinité. Ça fait... Oh, attention, compaction, pompage, hop, et c'est vrai que médicalement, on voit qu'effectivement... J'ai lu ça il y a 4 ou 5 ans, effectivement, les semences masculines se disloquent et sont prises en charge par l'organisme, et effectivement, hop, effectivement, t'as pas besoin d'aller, il n'y a plus de déchargement. La semence masculine, elle est faite pour irriguer, illuminer, viriliser l'homme de manière à ce qu'il puisse recevoir de l'intérieur la lumière qui illumine de l'intérieur la pureté du don de la femme dans la signification sponsale de son corps féminin. Et du coup, ça active la découverte révélée de la signification sponsale de son corps masculin. Et du coup, si il a un peu de cran,
parce qu'il faut avoir du cran. C'est vrai, il faut avoir du cran. Alors à ce moment-là, il y acquiesce et il devient viril. Et du coup, il se reçoit dans l'accueil de ce don et assure la réciprocité du don dans quelque chose de sacré et dans la main de Dieu. Et comme il est dans la main de Dieu et qu'il donne avec toute la signification sponsale de la virilité intérieure de son corps, et du coup la femme est reçue et est reconnue pour elle-même dans l'échange de l'accueil et du don, et du coup elle devient encore plus purement femme. Et du coup elle découvre cette fois-ci pour la première fois la féminité de son corps, irriguée de l'intérieur par la lumière de l'échange du don et de l'accueil. Et du coup à partir de ce moment-là, l'échange de l'accueil et du don, dans le point de vue intérieur de la signification sponsale du corps, ne peut plus s'arrêter d'augmenter. Dans l'amour de complémentarité. Et l'orcisme de la pédérastie et d'homosexualité entre l'homme et la femme. Et il faut, rentrer dans cet admirable exercice de la mise en place de la signification sponsale du corps. Quand on est amoureux, il faut en profiter quand on est gosse, quoi. Dans la chasteté, évidemment, parce que il n'y a plus de chasteté, c'est terminé. Ça ne marche pas. C'est pas qu'il n'y a pas de chasteté. Ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Donc, c'est impossible. Donc, ça veut dire que, vous voyez, donc, alors, le pape, lui, il propose quatre exercices. Un exercice sur la manière. Un exercice pour mettre en place une solitude habitée dans la féminité de mon corps ou dans la virilité de mon corps, la solitude, la dimension de solitude. Des exercices pour la mise en place de la signification de mon corps dans l'union de ma solitude habitée avec toute la création, tout ce qui existe dans la création, c'est-à-dire j'épouse tout ce qu'il y a dans la création. Il y a quelque chose de viril hein, dans la création, c'est la lumière, et il y a quelque chose de féminin dans la création, c'est la matière hein. Donc selon qu'on est masculin et féminin, vous pouvez et la matière, attention, en contact avec la transcendance de Dieu hein. La transcendance de Dieu, c'est féminin, c'est évident. Hein. Donc, ça, le pape, il explique ça. Il dit à un moment donné, quand tu fais un acte d'adoration, avec toute la féminité dans le corps, tu t'abandonnes. Regarde, tu t'abandonnes dans tout l'univers, mais vous voyez, dans toute la lumière de l'univers qui est dans les mains de Dieu. Là, quelque part, tu apprends petit à petit à respirer dans la féminité de l'intérieur. Il y a quelque chose qui s'illumine et qui fait vivre de l'intérieur. Là, c'est la lumière vivifiante intérieure qui intériorise ta sexualité féminine, ta féminité physique, si tu préfères. Et pour l'homme, pareil. Et c'est comme ça que on devrait, comme préparation au mariage, systématiquement dire, bon, écoutez, vous allez faire une retraite pour vous préparer au mariage. Donc, d'abord, dans une grotte, pendant un mois, tout seul. Toi, tout seul, hein. Un mois après, la même grotte, elle. Un mois. Eh oui, pour apprendre à mettre en place la signification sponsale du corps féminin, la signification sponsale du corps masculin. Et qu'on n'ait plus peur de la solitude, parce qu'il y a des purifications qui se font à ce moment-là. Ces purifications sont d'ailleurs pas... Et c'est la dimension de solitude. Ensuite, la dimension, on va aller plus vite, la dimension donc d'unité. La dimension d'unité. Il y a du coup un appel à l'unité intérieure dans l'unité de Dieu et dans l'unité de la création secondaire, ce que je viens de vous dire. Bon, solitude habitée, unité, c'est très très proche, mais il y a une unité maintenant un autre type d'unité qui est l'unité avec celui que l'on aime. Parce que si ma solitude est habitée, hein, si vous voyez, si je suis seul et que il y a des gens qui sont seuls, mais c'est pas possible, il faut du bruit, hein, il faut du mouvement, il faut rencontrer des gens, être seul comme ça, j'ai peur d'être seul, j'aime pas d'être seul. Alors, non, au contraire, ça ici, ça veut dire que bon, c'est encore un PD.
Donc si c'est pas, c'est un peu dommage, quoi. Bon, alors non, il faut être debout. Il faut être debout. Et si tu es debout, ça veut dire que ta solitude est vivante, est habitée. Qu'est-ce que tu es conscient, c'est d'être seul. C'est une solitude vivante, quoi. À ce moment-là, ça prouve déjà que si jamais deux solitudes vivantes se rencontrent comme ça dans la dans la complémentarité, hein, c'est un anonyme phrase. À ce moment-là, si c'est deux solitudes vivantes, chacun va apprendre à assumer la solitude vivante, attention, de l'autre. Pas la solitude mauvaise, la solitude vivante. Non, le pape lui propose cet exercice. Apprendre à saisir la solitude vivante de ce qui anime de l'intérieur la féminité de son corps dans son union récapitulatrice vivante et merveilleuse, surabondante de tout l'univers. Et réciproquement. Alors à ce moment-là, on va faire l'expérience de l'unité. Mais comment est-ce qu'on fait l'expérience de l'unité? C'est très simple. C'est, il suffit que mon petite amoureuse, elle s'abandonne tranquillement à l'intérieur de moi, et avec une grande confiance. Elle sait que je ne vais pas lui sauter dessus. Hein. Voilà, évidemment. Bon, évidemment, si elle vibre comme ça, telle l'adolescente qui pimpone du porponnet, c'est foutu. Mais sinon, sinon, normalement, il n'y a pas de problème. Hein. T'inquiète pas, l'homme, il n'est pas bête. Il voit très très bien, hein, comment une femme se donne. Il n'y a pas de problème. Si c'est pur, c'est pur. Hein. Il ne touche pas. Hein. Donc, s'il touche, c'est bien parce que c'est pas ta faute. Ça, je vous assure que c'est vrai. Hein. Donc, c'est pour ça que quand on dit quelquefois, j'avais une mauvaise idée à dire là. Donc, quand vous voyez, regardez, l'exercice est très très simple. Ça peut être à distance, c'est quelqu'un que vous avez aimé, vous étiez follement amoureuse quand vous aviez 20 ans, même si vous en avez 50 aujourd'hui. Hein, c'est follement amoureuse, vous pouvez recommencer. Vous pouvez. On est toujours amoureux. Là, tout amour vient de Dieu. Alors donc, vous pouvez vous réentraîner sans régression. Actuellement, vous rentrez dans quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais vous aimez, à titre vraiment, bon, viril, quoi, hein, virilement, mais profondément, comme femme, virilement, c'est l'homme et la femme. Hein, vraiment, alors à ce moment-là, vous voyez, vous apprenez à, selon le cas, hein, recevoir ou habiter à l'intérieur de ce qui illumine. Je répète, à habiter ou à recevoir, selon les cas, ce qui, de l'intérieur, illumine intérieurement l'intériorité du corps de l'autre. Je répète. À venir habiter ou recevoir ce qui, de l'intérieur, illumine intérieurement ce qui fait vivre l'intérieur du corps de l'autre. Oui, c'est triple, hein, vous avez vu, c'est triple, dans l'intériorisation, c'est triple. C'est le pape qui explique ça. À ce moment-là, vous faites l'expérience de l'unité. Et du coup, vous développez en vous la santé ou la nature normale du corps féminin et masculin. Petit à petit, vous mettez en place la signification responsable du corps masculin. Sans la chasteté, c'est pas la peine d'y penser, encore une fois. Hein. Vous n'avez pas la chasteté, jamais vous n'y arriverez. Bon, maintenant, il propose un autre exercice, hein, la nudité. Il propose un autre exercice, c'est la nudité. La nudité, c'est pas la nudité. C'est bon, maintenant, on va s'exercer en se foutant à poil, comme ils font dans le New Age. Hein. Bon, maintenant qu'on a bien vu, comme Gandhi nous a expliqué, ou Satya Sai Baba, il nous a bien expliqué qu'il ne fallait pas qu'on ait d'union sexuelle débridée, donc on va faire des trucs comme ça. Lui, il propose métaphysiquement, bien sûr, et puis dans les séminaires New Age. Hein. Alors, donc maintenant, on va se mettre tout nu et on va faire pareil. Non, ce n'est pas exactement ça que propose le Saint-Père. Il s'agit de la nudité intérieure. Il faut que tu puisses, puisque tu en reçois, que tu vis de l'intérieur, ce qui illumine intérieurement, ce qui vivifie l'intérieur du corps masculin, puisque tu es une femme, et que c'est là-dedans que tu vis et que tu t'épanouis, et que comme une fleur, ta féminité pousse, c'est ce qu'on dit. Alors à ce moment-là, tu apprends à éprouver ce qui apparaît lorsque, dans la réciprocité, celui que tu aimes fait pareil. Sans que ce soit ton imaginaire, bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait un amour véritable, il faut vraiment qu'il y ait un exercice d'unité. Alors à ce moment-là, tu vois, il y a quelque chose que tu vois. Tu peux contempler le secret de l'autre. Tu vois, tu saisis quelque chose, tu vois, celui qui s'est donné à toi est mis à nu. Il s'est mis à nu. Il s'est désarmé. Il s'est dénudé intérieurement. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu devient impuissant. Il s'est désarmé. Il est amour, vous comprenez? Alors c'est ça. À ce moment-là, on va faire l'expérience de la nudité mutuelle. La manière de vivre la nudité intérieure, attention, responsable, n'est pas du tout la même chez la femme et chez l'homme. Mais pas du tout. Alors c'est très très beau de voir le pape qui explique ça. Très marrant. Puis enfin, il va se proposer un autre exercice pour éviter l'induction à l'objet. Ça, c'est pour éviter la peur. Ça, c'est pour éviter la honte. Ça, c'est pour éviter la mauvaise pudeur, qui sont à chaque fois des conséquences du péché originel qu'il y a dans le livre de la Genèse. Voilà. Et ça, c'est pour éviter l'orgueil, la réduction à l'objet.
La quoi à l'objet ?
La réduction à l'objet, c'est-à-dire que tu domines, quoi. Puisqu'il s'est mis à nu, je prends et je domine. Hein? L'orgueil, quoi. Donc c'est le serpent a fait bouffer l'arbre de vie pour qu'il y ait l'impossibilité d'unité spontanée. Donc il faut vaincre la peur, la honte, la pudeur et l'orgueil. L'orgueil, enfin, la volonté de puissance, la réduction à l'objet. Transformer l'autre en objet.
L'instrumentalisation.
Oui, alors ça c'est très très gros, mais il y a des manières très subtiles de la réduction de l'objet. Hein. Alors, donc ici, il propose ici un exercice qu'il appelle donc l'exercice du don. Et il y a une débat admirable, mais admirable dans l'exercice qu'il propose ici. Hein. Si vous avez peur de faire ça avec Charles, par exemple, mesdames, bah écoute, ils n'ont pas à avoir peur, c'est évident. Eh bien, faites-le avec le corps mystique du Christ tout entier. Et c'est sûr, pour nous les chrétiens, c'est hyper facile. Pour nous les chrétiens, c'est très facile. Puisqu'on va très facilement vivre du réveil spirituel du corps masculin ou féminin dans notre union avec le Christ, le corps mystique vivant de Jésus entier. Ah, vous voyez, parce qu'il y a une dimension féminine, c'est la Jérusalem spirituelle, évidemment, qui est unie au Verbe de Dieu, la personne même du Christ tout entier, qui est féminin aussi. Et dans le Christ tout entier, c'est évident que c'est la paternité de Dieu qui est là, qui me voit voir le Père. Voilà, ça c'est pour les femmes. Hein. Et puis, c'est Jésus ressuscité quand même. Attends, c'est plus lumière que ça. Plus pompage et transformation en gloire, tu rêves. Hein. Donc, je veux dire, pour l'utiliser pour tous ces exercices, la petite chrétienne, c'est enfantin pour elle d'être une femme. Et le jeune homme, c'est pareil, c'est enfantin pour lui d'être viril. Donc c'est évidemment, là ici on est sûr de ne pas se tromper, c'est évident. De temps en temps un petit exercice quand tu fais un slow, c'est pas mal. Mais tu ne vas pas faire des slows pour faire des exercices, mais tu vas te rendre compte que c'est vrai tout ça. Vous voyez ? Donc une chose est sûre, c'est que tu vas constater une chose, c'est que si vraiment un jour tu aimes quelqu'un, c'est fini, il n'y a plus de passoire. C'est marrant, hein, ça sort plus. Même la nuit, hein. Il n'y a plus de tâches sur le matelas. Il n'y a plus de tâches sur le drap. Il n'y a plus. Si tu n'aimes pas, hein, si tu n'aimes pas, ben, y a un problème, hein. À ce moment-là, tu t'aimes toi-même, tu te replies sur toi. Le repli sur soi, c'est l'amour de similitude. C'est pas l'amour de complémentarité. Là, évidemment, alors là, ça va dévisser la passoire. Vous voyez ? Voilà. Donc ça, la mise en place de la signification sponsale du corps est aujourd'hui une obligation parce que nous allons rentrer dans l'heure des noces de l'agneau. Donc dans l'heure nuptiale de l'Église, dans l'heure sponsale de l'Église. Donc il est absolument nécessaire de mettre en place la signification sponsale du corps, qui est donc le troisième ou quatrième, enfin ça fait partie du troisième champ de la spiritualisation du corps. Avec, vous avez compris que j'avais dit les sept sacrements, ici je n'ai mis à part la question du fruit du sacrement de mariage, qui est ce que je viens de vous dire. Voilà, voilà mon quatrième chapitre, c'est mon corps se spiritualise, vous sentez bien que tout ça, ça spiritualise le corps dans le sens de la nature. C'est-à-dire, il redevient d'une santé intérieure, physique, lumineuse, naturelle. Il respire enfin comme corps humain. Mais maintenant, il va falloir surnaturaliser ce corps. Il va falloir que ce corps soit imbibé, comme l'huile imbibe un buvard. Il va falloir que notre corps, de l'intérieur, soit divinisé. D'accord ? Donc, pour qu'il soit divinisé, je propose un exercice tout simple. Le pape, lui, il explique que, maître aux familles 97, sauf erreur, que on va lutter maintenant contre la dualité qui est dans le corps. Il y a une dualité. Cette dualité qui vient de ce que je vous ai expliqué, donc de cette rétractation entre l'esprit qui devrait être entièrement dans le corps spirituel et qui en fait n'y est pas. Donc on est dans un corps psychique au lieu de se trouver dans un corps spirituel. Donc il faut aller vers supprimer la dualité et rentrer dans l'unité. Et ça peut se faire qu'avec Jésus. Ça peut se faire qu'avec le Christ, avec la plénitude du Christ. Donc il va falloir donc faire en sorte que non seulement notre âme se divinise dans l'oraison, que notre corps soit sponsable, qu'on vraiment vive un mariage total avec Dieu, on se consacre vraiment à Dieu, c'est Dieu seul qui compte pour nous, c'est Jésus qui compte pour nous, c'est tout, avant tout. Et à ce moment-là, on va comprendre une chose, c'est que du coup, on va mettre en harmonie notre corps originel, notre corps actuel et notre corps de résurrection, notre corps d'au-delà de cette terre, notre corps spirituel, on va les mettre en harmonie. Pour ça, on va faire comment ? On va mettre notre corps qui se spiritualise, qui reste encore un corps psychique, il y a toujours quelque chose de psychique dans notre corps, quelque chose de terrestre. Il y a toujours quelque chose de terrestre dans notre corps. C'est un corps psychique. C'est ce que dit saint Paul, hein. Donc ce corps psychique, je vais le remettre entre les mains de Dieu par l'adoration, en le mettant en harmonie avec mon corps originel, ce que d'ailleurs tout à l'heure je vous ai expliqué. Comment on faisait, c'est donc tout simple, avec mon corps actuel, je me mets entre les bras de mon oui originel en l'actualisant aujourd'hui. Donc je me mets avec le... Une fois que je suis dans mon corps originel, je demande à Jésus, je demande au Christ, je demande à Marie, je me remets entièrement à Marie, je me remets entièrement à la maman, à la maman du ciel, je me remets en fait, et elle m'emporte. Et elle m'emporte, si j'ai retrouvé mon nom, et elle m'emporte dans mon corps spirituel qui est au-delà de la terre, pour mettre en harmonie mon corps psychique en mon corps originel, grâce à elle, avec mon corps spirituel venu d'en haut. Et c'est comme ça que mon corps spirituel se met ici en contact
du dedans, grâce à la fécondité ressuscitée de Marie, elle engendre, du coup, dans mon corps psychique, la présence de mon corps spirituel, et petit à petit, exactement comme les manipulations, c'est petit à petit, il y a une harmonisation qui se fait entre mon corps psychique qui se spiritualise, corps spiritualisé, et mon corps spirituel venu d'en haut. Si ça, cet exercice-là, paraît compliqué quand je l'explique sur le tableau, mais en fait, il est très simple. C'est la foi catholique, hein, ça. C'est la foi catholique. Là, vous êtes dans la foi catholique à l'état pur. C'est pas une foi cosmique, là, hein, puisque vous sortez du cosmos, là. Le cosmos, il s'arrête là. Le Christ cosmique, il s'arrête là. L'exercice. Là, ici, on est dans l'anastase. Donc là, ici, vous êtes vraiment dans la catholicité à l'état. Marie est dans l'Assomption. Donc, ça veut dire sa maternité, sa fécondité sur le point de vue du corps humain. Elle a donné son corps physique au Christ, à Dieu. Est transformée par la résurrection, l'Assomption, et sa maternité, sa fécondité qui produit le corps du Christ, est glorieuse. Donc elle est pas centuplée, c'est sans limite. Sa fécondité sur le corps devient une fécondité sans limite. Sans limite. Ça veut dire qu'elle va engendrer effectivement du ciel de sa résurrection un corps. Mon corps spirituel dans mon corps actuel, et c'est comme ça que je vais faire partie corporellement du corps mystique vivant de Jésus vivant. Et ça, je dois ça à Marie-Reine, à sa fécondité dans l'ordre de la chair. C'est pour ça que la définition dogmatique de Marie dans l'Assomption, c'est vraiment l'événement capital de l'histoire de l'Église. Parce que ça veut dire. Concrètement, dans le concret spirituel, si vous voulez, ça veut dire qu'elle est la mère de tous les lions, jusque dans le point de vue de la chair, dans le temps. Donc il va bien falloir, ça c'est la théologie. Maintenant, dans le concret, il va falloir donc vivre, vous comprenez, moi, je mets mon corps ici, en adorant mon Seigneur et mon Dieu dans... en harmonie avec la liberté de mon corps originel, après tout je retrouve mon oui, mon identité et ma mission, hein, à l'état limpide et pur, comme méthode Saint-Thérèse d'enfant Jésus, hein, simplement, hop. Et là, ici je me remets entre les bras de Dieu mon Père dans l'ascenseur, avec Marie, et elle m'emporte dans le règne du Sacré-Cœur. Et le règne du Sacré-Cœur descend en moi, et met en moi, l'odeur de mon corps spirituel venu d'en haut, qui est évidemment au-delà de la terre. Ah, ça c'est intéressant ça, parce que ça c'est très intéressant ça.
Vas-y, ma tante Thérèse.
Ah,
là, c'est
pas
moi. Ça c'est intéressant. Ok. Parce que figurez-vous que quand je fais ça, hein? Eh bien, pendant 30 secondes. Je me place entre les bras des sens vivants de l'Immaculée Conception qui m'emporte et la reine du Sacré-Cœur pour la mise en place de mon corps spirituel.
Ah, vous posez.
C'est pas bien, ça fait.
C'est elle qui fait le travail, tu fais rien du tout.
Pendant ce temps, combien de cellules se sont multipliées là?
Pour participer à l'éternité. Vous
savez combien? Pas mal. Hein?
Et s'installe à l'intérieur de vous.
Dans les six séparités cellulaires.
Dans les déterminations du DNA, dans la mémoire ontologique
royale, sacerdotale sur notre
vie, des cellules
staminales,
attention,
des cellules
staminales,
des cellules staminales. De mon corps spirituel venu en haut.
Et à chaque fois.
Comme il a, professeur Manfuso.
C'est pas parce que tu es ignoble.
C'est terminal. Vous voyez, terminal.
Quand vous faites, j'ai oublié de vous dire que vous êtes dans l'unité sponsale, figurez-vous. Vous rentrez dans l'échange d'accueil dans l'unité sponsale pure, terminal. Mais c'est physique, hein, c'est chiffré. À ce moment-là, c'est plus le jaune du masculin, c'est plus le bleu du féminin, c'est le vert de l'unité sponsale. Vous restez là. Oh, vous restez là, la licorne. Tout le monde sait que j'aime beaucoup la chartreuse. La chartreuse, vous vous rendez compte, la chartreuse, que c'est le bleu. Et comme j'ai fait mon novice à l'Eras, l'érina, jaune. L'érina, c'est un goût de mandarin. Meilleur que la l'érina, je crois que tu peux pas. C'est bon.
Mais non,
la l'érina, vert.
C'est très vite.
Alors, donc, unité sponsale, il n'y a plus la solidarité assumée mutuellement, il n'y a plus cette unité mutuelle dans l'échange d'accueil. Non, il n'y a plus, etc. Non. Il y a l'unité sponsale.
C'est la couleur verte.
Il n'y a plus que ça. Donc, tu restes là, à t'abreuver, physiquement.
Ah, physiquement, je veux dire physiquement.
Deux. Pendant ce temps, il y a dans toi et aussi dans ton épouse, dans ta femme, et il y a des cellules qui sont nouvelles dans ta race, dans ton cœur, dans ton cerveau, dans ton cerveau, dans ton cerveau, dans tes intestins, tout ça, dans ton pancréas. 100%. Et oui, et qui détermine, vous vous rendez compte, qui détermine.
Cette cellule qui n'est pas totipotente,
Ils sont les cellules.
Ce qui détermine, c'est pas
ton âme bleue.
Ton âme bleue.
C'est
la verre.
La verre. Ah, comment c'est ça? Parce que du coup, je porte à partir de là
des cellules terminales de notre unité de consomme.
Non, c'est terminales de notre unité de consomme. Eh bien, c'est pareil. Non, tu vois, t'as rien compris, c'est normal parce que c'est juste. Alors, un autre exemple pour savoir ce que c'est qu'une cellule terminale. Tu vois, c'est scientifique, hein. Une femme conçoit un enfant.
Ok? Donc l'enfant se multiplie.
Il va s'accrocher dans l'utérus.
D'accord, c'est ça. C'est vrai, donc, ça veut dire, c'est pas.
C'est les cellules endodermiques, celles qui vont en particulier se remuer la poche.
Excellent,
on perd des cheveux, on perd des squames, la peau, tout le temps, mais l'embryon c'est pareil. Donc il y a plein de petites cellules de l'embryon qui, dès les premiers jours, se séparent du bout embryonnaire, vont dans le corps de la mère, vont ici au niveau du bas des bras, et aussi dans la moelle osseuse. À deux endroits spécifiques de la mère. Et ces cellules de l'embryon ont le patrimoine génétique de l'enfant. Et ces cellules deviennent presque vivantes dans la mère pendant 40 à 50 ans. Donc la mère, même si l'enfant est mort, les cellules vivantes de cet enfant restent vivantes. Ce qui fait qu'il y a un vase communicant physique et moral et spirituel direct de la mère à l'enfant grâce à ces cellules staminales. Donc il y a des cellules staminales donc de la mère à l'enfant, il y a des cellules staminales de l'unité frontale et enfin il y a des cellules staminales du corps spirituel venu d'en haut qui vient de la Marie-Reine. D'accord? Vous comprenez ça?
Oui.
Donc il s'agit de... Vous comprenez qu'apparemment vous avez compris ce qui, cette phrase du Concile de Vienne, que la forme substantielle du corps vivant, c'est l'âme. C'est l'âme qui est la forme substantielle du corps. Vous avez compris si votre âme est substantiellement, comme dit le pape, ontologie tout le monde, déterminée par la présence du corps spirituel venu en haut et qui est exactement, et bien c'est lui, et lui qui vient de la Sainte Famille d'Heureux, et bien vous allez avoir des cellules staminales du ciel. Donc si vous avez, qu'est-ce que cellules staminales? Oui, pendant une minute, vous en avez au moins 2000
nouvelles cellules staminales venues du corps spirituel, camarade.
Alors l'Antichrist il arrive, attends, celui-là on va te le passer un petit peu, et voilà, ça fait 50 tout seul.
Il n'a pas perdu,
et moi je ressors rien du tout. Parce qu'il ne peut pas sulfater plus loin que son domaine du corps cosmique. Donc, tous ceux qui auront mis en place le corps spirituel,
parce qu'ils auront la maturité frontale du corps,
qui seront des transformateurs et des adorateurs,
du coup ils seront des récepteurs et ben, de la destruction du mal.
C'est tout simple. Une fois que tu as compris ça, tu as compris tout.
Tout.
Du comment, du combat eschatologique, du sixième saut de l'Apocalypse. Comme dit Serge, il dit, moi j'ai rien compris, et j'ai compris que j'ai rien compris.
Alors, si tu as compris que tu n'as rien compris, tu diras cette
prière. Tu diras Seigneur.
Seigneur, me voici.
Pour que tu montres, pour que ton sacré cœur, de l'intérieur, Marie, ma maman, de l'intérieur, m'emporte dans le monde nouveau pour la mise en place de mon corps spirituel. Tu le dis, tu restes suspendu, et tu attends que les cellules continuent à se multiplier en toi pendant que ça se fait. Oui, pour le moment, pour une certaine. Me voici. Pour que ton règne, non, pour que ton sacré cœur, que l'Immaculé Cœur Association de Marie, ma maman, m'emporte dans le règne sacré cœur ou dans le monde nouveau de la mise en place de mon corps spirituel. Venu d'en haut. Bon, mais de toute façon, vous avez ici, ici, conférence de Lourdes, quelques petites prières comme ça. Très sympathique sur le protocole pour la mise en place du corps spirituel. Vous avez ici quelques petits éléments très simples sous forme de poèmes, voilà, pour la mise en place du corps spirituel. Merci. Progressivement, parce qu'il y a. Mais je vous affirme que c'est plus simple, c'est pas possible, tu ne peux pas faire plus simple. Vous comprenez qu'en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Un chemin va s'ouvrir entre le ciel et la terre. Et c'est par ce chemin que la croix glorieuse de notre Seigneur va apparaître. C'est par ce chemin que la Jérusalem céleste va se conjoindre à la Jérusalem spirituelle. Le monde ancien de l'Église catholique s'appelle l'Église militante. Le monde nouveau de l'Église catholique s'appelle la Jérusalem spirituelle. Le monde dernier de l'Église catholique sur la terre, c'est la conjonction dans l'Église militante, de la Jérusalem spirituelle et de la Jérusalem céleste. D'accord ? D'accord ? Donc si vous en restez à l'Église militante du XVIIe siècle, bon, Marx Robin disait, si vous en restez à l'Église militante du XVIIe siècle, c'est triste.
Alors,
il ne faut pas rester à l'Église militante du 18e siècle, du 19e siècle, non, non, non. L'Église militante, c'est la tradition, c'est comme dit Saint-Vincent de Lérins, l'Église militante, c'est la tradition, elle est faite pour être renouvelée dans le monde nouveau, de la Jérusalem spirituelle, parce que c'est traduit comme dit Saint-Thomas, être rénovée. Tradéré, être rénovaré. Attends, si c'est tradéré pour tradéré, autant que c'est dans un jeu, on peut dire, voilà, c'est pas la tradition pour la tradition, c'est tradéré pour le renouvellement. Donc l'Église militante
être et ne varier. Donc, le sixième sceau d'Apocalypse, c'est vraiment la Jérusalem spirituelle. Donc, l'église, et la Jérusalem spirituelle, regardez, voyez bien, c'est un chemin sourd entre la Jérusalem céleste et un sacré, c'est extraordinaire, la mise en place du corps spirituel. Et donc, évidemment, que les portes du ciel vont s'ouvrir, rendent possible la conjonction entre la Jérusalem céleste et la Jérusalem spirituelle dans l'église militante. Donc, vous avez tous compris. Ce passage de la cinquième église d'Apocalypse à la sixième église d'Apocalypse, c'est la septième. Cinquième, sixième, septième église. Cinquième, sixième et septième saut. Cinquième, sixième et septième trompette. Cinquième, sixième et septième signe de l'Apocalypse. Vous voyez, les douze septenaires d'Apocalypse se lisent ici. Et vous ne pouvez pas comprendre l'Apocalypse si vous n'avez pas compris ça. Et l'Apocalypse, c'est une révélation, vous voyez, c'est une révélation de ce qui va se passer. Mais la clé de tout ça, c'est la mise en place du corps spirituel. Non, toi, tu as compris, tu n'as rien compris, donc... Bah oui, vas-y, si tu veux.
Par Marie de la Croix Glorieuse, parce que Marie, elle vient appuyer sur le levier le plus important qui existe au monde, les saints innocents et les embryons. Parce qu'ils sont 50 milliards, et nous sommes 7 milliards.
Eh bien, bien sûr, nous on fait
les
ça.
Mais on remet dans le circuit parce que nous n'avons plus assez de prières. Et donc, c'est le monde nouveau.
Ben, tu as raison. Tu as raison en ce sens que. Non, mais tu as raison en ce sens que. Ici, moi, mon corps physique. Je vais le revivre dans l'innocence originelle de mon corps, d'accord. Et, mais pour pouvoir avec Marie être emporté dans le règne nouveau du Sacré-Cœur dans le monde spirituel, je traverse forcément la présence de tous le monde des saints innocents pour les emporter avec moi dans le règne avec l'exercice. Et du coup, j'emporte toute la destinée du corps spirituel de l'Église tout entière. Le corps mystique, et c'est comme ça que traversant, ça ne peut pas se faire sans la médiation du corps spirituel de l'Église, du corps mystique du Christ, c'est impossible. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit, je voulais le dire, mais on ne peut pas tout dire d'un seul coup. Mais il est bien évident qu'on est très très conscient lorsqu'on le fait, non mais tu as raison, on est très très conscient quand on le fait, que d'un seul coup, dans les cellules de notre corps, contiennent tout le corps mystique spirituel de l'Église. Ah bah oui, ça c'est la preuve.
Parce qu'il y a bien pas les maladies en plus.
Bon.
C'est pour ça que demain, nous donnerons une
question. Et où est l'église de la Odyssée dans le combat?
Ben, l'église de la Odyssée, mais c'est la septième, hein?
Oui.
Elle est là. Parce que pendant que tu fais ça, ceux qui sont restés dans le monde ancien, et qui sont chrétiens, et ceux qui sont restés dans le monde ancien qui sont chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sera une église terrestre. Et ça donne, quoi qu'il n'y ait ni chaud, ni froid, etc. C'est là où c'est. Mais l'église elle-même de septième n'est plus une église à terre, puisque c'est la Jérusalem céleste unie à la Jérusalem spirituelle dans l'église militante. Et quelque part, tu es nu. Alors, quelque part, c'est vrai que ceux qui sont dans l'église de la Odyssée au sens fort, c'est ceux qui sont dans la nudité sponsale des noces glorieuses de la Jérusalem céleste et de la Jérusalem spirituelle dans le corps mystique de l'église militante. Ils vivent de la nudité, au sens que je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est pour ça que c'est l'église de la Odyssée aussi. Mais vous avez la face tiède et la face chaude de l'église de la Odyssée. Bon, on verra demain les choses encore plus importantes, bien sûr.
Merci.